Et bon après-midi à tous, merci d'avoir choisi Europe 1 avec jusqu'à 18h le meilleur dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande avec dans ce premier extrait Fabrice Eboué, Pierre Bénichoux, Stevie, Olivier de Kersauzon et Joujou décidément trop fort.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Pourquoi peut-on dire que personne n'a eu le prix Fémina? Pourquoi peut-on dire que personne n'a eu le prix Fémina?
C'était un homme?
Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez?
C'est réservé aux femmes, non?
Pardon?
C'est réservé aux
non,
femmes.
Non, c'est un jury de femmes.
C'est un jury de femmes, mais ça peut être un homme qui obtient le ouais. prix Fémina. Mais pourquoi peut-on dire, c'est ma question, que personne n'a eu le prix Fémina?
Parce que ça s'appelle personne.
Parce que le bouquin s'appelle personne.
Voilà, bonne réponse de Joujou. Heureusement qu'il est là, Jérémy Michalak.
Il connaît bien, hein.
Et le nom de l'auteur, vous l'avez, non, des fois
Aubry.
Oh, il est fort, quand même.
Gwenaël.
Oh là 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 là. Oh non, mais mon joujou.
Je l'ai fait complète, là. Il était encore dans ta poche ce matin quand tu as préparé la question.
J'étais bien au chaud, bien rangé.
Ah non, non, là, non. Moi, il me déçoit jamais, mon joujou. Mon joujou, c'est tous les jours. Peut-être vous allez pouvoir aller plus loin en me disant qui a obtenu le prix.
Le concours des lycéens?
Non, pas le concours des lycéens.
Dommage.
Le prix trop virilo. Qui a obtenu le prix Virilo?
Oh, je l'ai
Stevie
aussi.
Non, c'est pas
Gwenaëlle Aubry.
Non, mais non, elle a obtenu le prix Fémina.
Ah, parce que Gwenaëlle, c'est un prénom qui peut être masculin et féminin.
Et le prix Virilo, c'est un prix qui répond justement au prix Fémina. C'est la version testostérone du Fémina. Alors, qui a obtenu le prix?
C'est la black, là.
Ouais, c'est ça.
Non, elle n'est pas black.
C'est non, elle a obtenu le prix Goncourt. Ah, vous voyez, merde. Au cas où vous confondriez le prix Virilo et le prix Goncourt.
Je suis pas très prévisible.
Serena Williams, Serena Williams.
Pardon
le prix Virilo.
Qui ça?
Serena Williams.
Non, pas Serena Williams. Non. C'est 5 Vendéens et une poignée d'amis qui porte la moustache, qui décide de qui obtiendra le prix Virilo.
Et est-ce que le
vous
livre...
savez ou pas alors?
Ouais, je sais.
Ah ben allez-y alors.
Est-ce que c'est Giscard d'Estaing?
Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Une moustache.
Non, effectivement, c'est Giscard pour son livre La princesse et le président, paru en septembre, hein, qui vient d'avoir le prix Virilo. Qu'est-ce qu'il vous dit
Il me fout de sa gueule, toi.
Non, il pense que quelqu'un me donne les réponses dans le casque, en fait.
Non, mais il boxe pas dans la même catégorie que nous.
Non, c'est bien au-dessus.
Mais il a peut-être raison, Kerso, d'ailleurs.
C'est un géant, c'est un géant.
Mais parce que c'est vrai que Michalak est un des rares. Non, mais Stevie a le casque aussi, il donne pas de réponses.
J'entends pas de voix, moi.
Pardon?
J'entends pas des voix.
Oui.
Oh, c'est Jeanne d'Arc.
La pucelle d'Orléans.
Ouais. J'ai d'autres ressemblances.
La pucelle du Mans. On a pu voir hier dans l'église Sainte Rita des poneys, un chameau, des lamas, mais des zèbres aussi. Enfin, on va demander d'ailleurs quel genre d'animaux il y avait exactement, puisque Monseigneur Dominique Philippe était sur place. Ah, oui. Bonjour Monseigneur, vous êtes l'archevêque primat de l'église catholique gallicane.
Primat.
Excusez-moi Monseigneur. Bonjour Monseigneur.
Bonsoir Laurent.
Alors, dites-moi quel genre d'animaux il y avait hier.
Il y avait des chameaux, des lamas, des poneys, des chèvres, des moutons.
Mais pourquoi vous bénissez des animaux, Monseigneur?
Parce que ce sont des créatures de Dieu et que ça fait maintenant 12 ans que chaque premier dimanche du mois de novembre, on bénit les animaux.
Il y a un petit côté arche de Noé, quoi.
Voilà.
Et vous pensez que Dieu a créé le chameau à son image, par exemple?
Non.
Ah bah, c'est le boss, quand même. Mais non, sérieusement, là, on fait rentrer facilement des chameaux, des zèbres?
Ah oui, sans problème.
Dans une église?
Ah oui, sans problème.
Ça a été filmé, je voudrais voir des images de ça. Moi, j'ai pas vu ça aux infos.
Ah oui, ça a été filmé, oui.
Ah oui, Jean, vous
êtes allé pour ton émission de télévision, dans le temps.
Ah bon?
Il y a quelques années.
Je me souviens pas.
Je me souviens pas.
Racontez.
Je suis allé avec un éléphant.
Ah,
je crois que Catherine Barman a investi très cher dans un éléphant.
Moi, je suis choqué.
Et d'ailleurs, il y a le curé qui a dit à l'éléphant, non, lui, on peut pas le laisser rentrer.
Moi, je suis choqué. Vous dites qu'il y avait des chameaux. Je pensais que les chameaux étaient musulmans, moi.
Non, il était catholique, celui-là.
Ouais. Et la chèvre
était convertie.
La chèvre était afghane.
Est-ce que la chèvre n'avait pas dit à monsieur Besson,
le mouton. Oui. Mais par exemple, pour les chiens qui communiaient, il y a des hostigues ou canigous, des choses comme ça.
Il
n'y
a pas de communion pour les animaux.
Il n'y a pas de goût spécieux.
Non, mais moi j'ai eu des choses tristes.
L'hostigue ou canigou.
Non, pas de tout.
C'est vrai qu'il faudrait y penser.
Oui, non, pas pour l'instant.
Attendez, alors ça veut dire que vous risquez de vous faire mordre quand vous appuyez sur la tête de chaque bête?
Non, pour l'instant, ça fait 12 ans maintenant, on n'a jamais eu de problème.
Bon, et en tant que curé, vous avez essayé de toucher des lionceaux ou des éléphantaux?
On a eu des petits lionceaux il y a quelques années.
Christine, vous, ça vous surprend?
Moi, je trouve ça très, très, très émouvant parce que ça les fait tous marrer. Mais voilà. En fait, il y a des gens qui sont très seuls et qui n'ont que leur animal domestiques pour vivre,
bien sûr.
Qui donnent un sens à leur vie.
Avec
et le fait de voilà.
Voilà, bravo,
bravo Christine,
bravo bébé. Brigitte Bardot.
Ouais, bravo Brigitte.
Mais c'est vrai qu'il y a des gens, tout seuls avec.
Non, ce qui est chiant pour Christine, c'est qu'il faut qu'elle attende novembre l'année prochaine maintenant.
C'est vrai qu'une petite vieille avec son chameau, elle est contente.
Mais qu'est-ce qu'il fout des gens à Paris avec un lama, par exemple.
Après tout, on bénit bien des bateaux, pourquoi pas des animaux, c'est vrai. Alors, moi, si j'avais su, je serais même venu avec mon chien, j'aurais fait bénir mon chien. Non, mais écoutez, c'est une belle action que vous faites là,
monseigneur. Les blattes et tout ça, on peut les emmener. Quand on a des blattes chez soi, on peut les emmener.
Non, mais des lézards.
Toutes les créatures de Dieu.
Paraît que l'animal domestique à la mode en ce moment, c'est le dragon barbu.
Oui.
Qui est un lézard.
Oh, mon Dieu.
Et c'est un animal domestique. Les lézards, c'est ce qui se vend le plus en ce moment.
C'est vachement domesticable, le lézard.
Bien sûr. Bien sûr.
Le lézard, c'est le truc de la création le plus froid, le plus
laid. Mais t'as pas le droit de dire ça d'un lézard.
Mais vous êtes une créature de Dieu, dis donc.
Quand t'arrives dans les lieux publics, d'ailleurs, c'est commun, ça arrive tout le temps.
Et la petite vieille qui a son dragon barbu, elle est pas contente.
Mais quand t'arrives encore son dragon barbu, voilà. C'est ça qui est grave.
Mais quand t'arrives dans un lieu public, par exemple, c'est souvent un marqué interdit de fumer et tenez votre lézard barbu en laisse.
Mais je vous jure que les lézards barbus, c'est ce qui se vend le plus en ce moment.
Ben oui.
Et on peut venir faire bénir son lézard auprès de monsieur le curé.
Dans les pieds au mur.
Est-ce que vous avez béni des lézards d'hier?
Non, pas encore. Non, on a béni des rats, des souris, des furets.
Des furets, tu vois.
Des furets, oui. Il court, le furet.
Voilà.
Et non, pas le contraire.
J'ai une contre-pétition.
On sait bien qu'on est enregistré parce qu'autrement on ne les fait pas celle-là.
Jamais tu mettras le. Ça y est, t'as compris.
Ça y est, Christine Bravo vient de comprendre.
Non, vous l'avez fait exprès, monsieur le curé. Monsieur le curé, vous l'avez fait exprès, là.
Non.
Mais vous avez vraiment béni, attendez, j'arrive plus à le dire. Béni des fourrés. Des furets.
Des furets.
J'avais peur qu'il dise fourré des curés.
Et bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez votre après-midi jusqu'à 18h, c'est avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs que vous le passez. Le meilleur dont va se gêner.
Racontez cette histoire de petits doigts. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Non, mais là, ce matin, Jacques ne m'a pas réveillée. Alors, je me suis levée comme une folle et j'ai un petit. Tu sais, il y a un colimaçon chez moi.
Ouais.
Et bien, alors, je me suis jetée dans le colimaçon et je me suis cassée. Fait très mal au petit.
Faut faire attention quand on mange des escargots, il ne faut pas se jeter dans un colimaçon.
Je sens que cette émission va être passionnante. Tu sais pas pourquoi?
Oui.
Ah, elle a démarré fort.
Ouais. Quelle idée de s'habiller dès le matin avec un costume de pute et des talons de 20 cm. Ah bah j'ai pas vu, excuse-moi. Non,
t'as vu comme elle lève la jambe?
Oui, t'as vu ça.
Ce qui est drôle, c'est que Claude lève la jambe pour montrer qu'elle a pas de talons de 30 cm. En revanche, le costume de pute, ça la dérange pas. Ça, c'est quand même incroyable.
Un petit côté moulin rouge.
Surtout que c'est honteux de dire ça à Claude, elle fait jamais de passe le matin.
Non, bravo, chérie. Y a rien de plus dégueulasse que ça le matin.
De quoi donc?
Ah oui, parce que les garçons sont en forme. Mais alors, ils sentent pas bon. Les filles sont se sentent décoiffées. Mais le truc des garçons, c'est tout de suite en se réveillant. Là. Vite, profite.
Et vous n'aimiez pas ça le matin?
Je teste.
Ah oui. Mais vous acceptiez quand même de temps en temps.
Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et plus souvent que de temps en temps.
Ah oui? Vous avez beaucoup simulé dans votre vie, Claude?
Pas oui.
Pour le.
C'est-à-dire faire des faux cris et tout?
Ben oui, quand ça s'éternise.
Et par exemple, alors.
Quand on a vraiment marre, que tu sais vraiment plus à quoi penser, t'as fait ta liste des courses.
C'est beau,
tu as réfléchi à ce que tu allais mettre le lendemain matin en te levant.
C'est beau l'amour. Hein.
Tu penses qu'il faut que tu prennes rendez-vous chez le dentiste à ce moment-là, autant y aller.
Vous pensiez à tout ça pour.
Pas tout le temps, n'importe quoi. Tu penses à n'importe quoi quand tu te fais chier.
Et alors le petit cri que vous simuliez, ça faisait quoi?
Personne n'avait raison. Il y a des âmes sensibles quand même.
Si, ça m'intéresse.
On va peut-être éveiller des souvenirs dans 2800 maisons de retraite.
Non. Le petit cri.
Non, Claude, pardon, je ne vous demande pas le petit bruit parce que ce serait inconvenant. Mais enfin, si vous avez envie, n'hésitez pas. Non, parce que c'est pas le vrai bruit, puisque de toute façon, c'est
non,
le faux.
Je connais la scène, elle est réussie comme jamais. Elle est formidable, cette scène. C'est quel film, les enfants? Rappelez-vous.
Top Gun.
C'est dans un café, ils font ça dans un...
Quand Harry rencontre Sally. Ah, ça.
Alors cette scène.
Vous voulez pas la faire avec Pierre hein?
Bah, ça sera quand papy rencontre mamie alors.
Génial, c'est génial.
Moi ça. Avec son vermicelle, là, le petit con. Quand papy rencontre mamie, non mais je te jure.
Franchement,
bah, vous, c'est quand papy rencontre papy, vous les deux.
On n'a pas encore entendu Gaspard Proust dans cette émission qui, je crois, est effarée.
Ah, c'est lui !
Non, mais enfin, moi, je me disais que Claude Sarraute pense à sa liste des courses. On ne sait pas à quoi pensait le type qui était... Peut-être qu'il pensait à autre chose aussi. Quoi.
Ah, ça, c'est vrai, après tout. Vous ne savez pas ce que pensent les hommes.
Ah, mais je sais à quoi ils pensent.
À quoi ?
Bah, il faut qu'ils se retiennent. Alors, eux, alors, ils trinquent les pires.
Ils pensent à sa mère, alors.
Ah bon ?
Ah oui, il faut qu'ils se retiennent. Vraiment, ils parlent comme des fous. Alors là, il faut qu'ils se retiennent et qu'ils pensent à des choses très, 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 très barbantes.
Ah oui ?
Bah oui, tu sais bien.
Bah, ils pensent à ce qu'il va manger le lendemain.
Non. Jusqu'à présent, on n'était jamais arrivé à ce degré de vulgarité qui consiste à dire, à ce moment-là, ils partent comme des fous. Ah non, ça, je trouve ça non, épouvantable. Écoute, vraiment. Écoute, pense à notre âge, chérie.
La conversation de fond que vous entendez est celle d'Olivier de Kersauzon qui téléphone de façon, mais alors, éhontée. Tu vois, non, franchement, monsieur de Kersauzon.
Mais il peut pas.
Et puis, regardez-moi quand je vous parle.
C'est marrant, j'aurais pas tenté ça à ta place.
Ah merde.
Après, tu fais ce que tu veux, mais je pourrais pas te défendre. Hein.
Vous savez ce que je viens de faire?
Non.
Je viens de le fermer, même.
Ah, c'est formidable, ça, monsieur de Kersauzon. Merci. Vous voyez, depuis que Pierre est revenu et qu'il me défend, quand même.
Bien sûr.
Hein, il a rabaissé son caquet.
Bien sûr.
Un Kersauzon.
Bien sûr.
Ah ouais, ouais.
C'est pas le Robert Bichoum de Papette qui va m'emmerder.
Ah, je me sens bien dominé par ces deux tafioles, moi.
h 47, bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le best-of d'On va se gêner et continue Laurent Ruquier et toute sa bande.
Bon, alors, je trouve autre chose pour...
Tu gâches le jeu, hein, tout simplement.
Pour Michalak. Hein. Bon, j'en tente encore une, alors qui n'a rien à voir, et encore trouvée dans France Soir. Parce que les auditeurs me disent, oui, c'est dans Le Parisien, alors forcément, Joujou lit Le Parisien par cœur. Non, on va, par exemple, essayer de trouver dans France Soir encore une autre question.
Alors. Quelle page tu nous donnes la page?
Non, alors là...
Non.
Fermez France Soir, Olivier.
C'est pas digne de vous, monsieur Olivier.
Il n'y a rien d'indigne de moi. Vas-y, balance.
Qu'est-ce qu'on appelle une procédure VGE depuis le 1er juin dernier? Qu'est-ce qu'on appelle une procédure VGE?
C'est quand on dit qu'on a baisé une meuf et qu'on l'a pas baisé.
Ah oui, ça pourrait, effectivement.
Syndrome de Diana.
Mais VGE, pour
Allez, Joujou, cherche.
Non, justement, il faut trouver ce que ça veut dire, VGE, et ça veut pas toujours dire Valérie Giscard d'Estaing, effectivement. Vous pouvez tous ici, déclencher une procédure VGE. Au cas où, effectivement...
Une procédure VGE.
C'est dans l'article L327 du Code de la route.
C'est un rapport avec des radars?
Non. Non, il faut trouver ce que ça veut dire VGE, et là, vous aurez la réponse, évidemment.
Vérification générale de quelque chose?
Non, pas du tout. C'est pas une vérification générale, Olivier.
Alors, vitesse?
Bon, c'est pas la peine d'avoir François devant les yeux.
Attends, je fais ce que je veux. Tu es en train de lire
vitesse,
le sport.
Vitesse?
C'est pas dans les pages sport.
Mais je lis, oui, mais je cherche pas ta réponse. C'est idiot, VGE, j'en lis le sport.
Vous avez vu comment il me parle, Pierre?
Non, mais c'était
enfin,
pas
moi je n'ai rien à dire, puisque c'est vous qui l'avez voulu. Mais je vous ai dit, vous verrez, les premiers jours, il va être charmant. Et après ça, dès qu'il va croire s'être affirmé, ça va être une horreur, ce type. Je le connais.
C'est ce qu'il vient de faire, Pedro. Là.
Comme toujours.
C'est surtout que ça t'a fait du bien.
Faut pas qu'on le garde. Hein.
C'est surtout qu'on découvre
Vous pouvez le garder si vous voulez foutre Europe 1 en l'air. Non, si vous êtes payé par les stations concurrentes dont je ne dirai pas le nom de la rue Bayard.
Ah, tu voudrais dire qu'il était envoyé comme ça en...
Mais c'est Bouvard qui l'envoie. Mais c'est ça. Ah, ouais.
Il est venu espionner et prendre des nouvelles.
Bon, mon VGE,
là.
Je n'ai pas ma réponse.
En rapport avec le permis de conduire.
Alors, regardez, mine de rien, il tourne les pages sport et il espère la trouver, la réponse.
Ouais, il est dans le tir. Tu vas arrêter de m'agresser. Ça, depuis le début, tu m'agresses.
Ah non.
C'est pas parce que ton garde du corps est revenu. après un mois de body bronzy ou building à Miami que tu vas être désagréable.
C'est vrai qu'il est bronzé, notre Pierrot. On n'a jamais vu aussi
il est
bronzé.
Il a une beauté. Hein.
Ah ouais, ah ouais. Ah non, on sent vraiment
oui,
que ça.
Oui, bon, j'ai un bon physique, j'ai un bon physique.
Ça lui a été profitable, hein, ces vacances. Hein. Non, ouais, parce qu'il est parti, il était un peu renfrogné, il était un peu.
Ouais, j'arrive jovial.
Il était un peu ronchon. Il nous aimait plus. Hein, il nous aimait plus.
Et là, mais tu sais, souvent, pour mieux aimer, il faut quitter et revenir. Et voilà. C'est ce que dit à ma femme tous les jours, elle veut pas.
Bon, VGE n'a pas été trouvé. En attendant, alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la procédure VGE?
Le E, c'est éthylotest?
Du tout.
V, c'est pas...
Voiture,
vengeance.
Quasiment voiture.
Véhicule.
Véhicule. Véhicule. Alors, le grand. VGE, c'est un véhicule.
De grande,
véhicule
de grande, grande.
Non, pas grand.
Et de gros, gros.
Non,
gros.
Non, non. Grosse, c'est grosse, un adverbe.
Gigantesque.
Ça commence par grave.
Gravement, gravement.
Gravement.
Endommagé.
Endommagé. Gravement endommagé. Bonne réponse de Fabrice Edouard.
Et c'est quoi la procédure alors?
Le VGE, c'est un véhicule gravement endommagé. Bah, ça veut dire que, en fait, le ministère de l'Intérieur vous informe que votre véhicule n'est plus autorisé à circuler. Et en cas de VGE, vous avez trois possibilités. Soit vous le faites réparer vous-même, et il y a un professionnel qui va vérifier après les réparations qu'il est à nouveau conforme pour circuler. Soit vous pouvez le vendre en l'état de véhicule gravement endommagé, soit vous en débarrassez définitivement en le mettant
à la casse.
Alors,
attendez, je voudrais savoir en quoi c'est une procédure. Puisque si on disait, si vous avez un véhicule gravement endommagé, on vous remboursera telle chose, on vous facilitera telle chose, quel intérêt on a à faire ça? On sait bien qu'on peut...
C'est l'État qui déclenche cette procédure. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes informé par l'État que votre véhicule est gravement endommagé. C'est depuis le 1er juin qu'un expert automobile qui a regardé après un accident, par exemple, votre voiture, dit, ben voilà, votre voiture, désormais, elle est gravement endommagée, vous pouvez plus rouler avec... Ah, ouais, c'est ça la différence. Pierre, c'est pas vous qui décidez de la procédure.
Ouais, mais bon, en général.
Ouais, quoi, en général?
Tu le vois quand même, non?
Non, non, vous voyez pas. Ça peut être un petit bout de pare-choc qui va empêcher un pneu d'avancer. Vous voyez.
Ça, c'est gravement endommagé.
Tu t'y connais vachement en mécanique, toi. Un petit bout de pare-choc qui va empêcher un pneu d'avancer. Chez toi, les pneus, ils avancent tout seuls. C'est-à-dire que plus il avance le pneu, plus il faut que le pare-choc circule. Ah, c'est ça? Non,
il est bon, il est bon. C'est
vrai que je suis pas très garagiste. Je sais même pas comment on ouvre le capot. Vous savez, est-ce que vous savez vous comment on ouvre le capot de votre voiture?
Non, parce que
bah on a un bouton.
On dit chauffeur ouvrez le capot.
Ben voilà.
Moi, eh, baisse le capot, on voit le moteur. Moi j'adorais.
Moi j'ai jamais ouvert le capot de ma bagnole. Vous avez ouvert le capot déjà vous?
Non, je connais pas ce genre de choses.
Bah voilà.
Mais non, parce
moi je sais même pas s'il est devant ou derrière le moteur.
Moi non plus.
Mais non, parce que vous êtes de cette génération où les voitures marchent.
Ouais.
Moi, je suis d'une génération où les voitures ne marchaient pas. Quand on descendait sur la Côte d'Azur en voiture, on avait au moins une panne.
Minimum
une panne. D'ailleurs, c'était bien. On s'arrêtait dans un village. Comment ça va, Florette? Tu vois, des gonzesses que tu trouvais. Bon, c'est là. Est-ce qu'il y a de la place à l'auberge? Non, venez donc. Venez donc dormir à la ferme.
Il a fait Paris-Saint-Tropez en calèche.
Ça sent le dandy à planer, là, tu sais.
Non, mais c'est ça. Oh, le coup de la panne, Florette.
Avec un foulard, tu sais.
Non, mais c'est vrai que les voitures marchent depuis pas longtemps.
Parce que Stevie, sa voiture marche bien, il s'arrête chez les routiers à chaque fois quand même.
Excellente fête à l'écoute d'Europe 1 et on continue le best-of dont va se gêner avec Laurent Ruquier, sa fine équipe et dans ce nouvel extrait, la présence de Serge Liadeau.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Titoff est ravi, Serge, car enfin pour lui, arrive, vous lui proposez le jeu du pouet-pouet.
Mais oui, c'est surtout à son intention que je fais le jeu du pouet-pouet.
Olivier de Kersauzon en profite pour aller pisser, mais Gaspard Prout. Prout.
Il y en a un qui va pisser, l'autre c'est Prout.
Je l'ai pas fait exprès.
J'ai pas entendu.
Gaspard Proust prend son papier et son stylo pour évidemment noter non pas les 9 noms, mais le mot qu'il faut deviner, c'est bien
exactement.
Ça.
Exactement, 8 extraits de chansons et un extrait de conte.
C'est le poète. Attends, j'ai pas de stylo, Serge, attends, 2 minutes.
Il n'y a pas besoin de papier et de stylo, puisqu'il y a juste un mot à trouver.
Ah bon, je confonds avec le poète.
Il est plus con que Kersauzon, celui-là.
Ah non, vous profitez que Olivier soit sorti.
Oui, bien sûr, tu penses que je veux pas le dire.
C'est lâche. C'est lâche.
Tu es lâche, Pedro, sur le coup, là.
Pourquoi tu es méchant?
Gaspard, est-ce que vous avez bien compris le principe du
pas
jeu?
Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi?
Il faut trouver un mot.
Il y a neuf.
Il faut trouver un mot. Parmi neuf mots.
Neuf chanteurs.
Et c'est Serge Liadeau qui anime.
C'est pas neuf mots. Mais tu vois, le mot revient neuf fois. Dans les extraits qu'on va nous donner. Voilà. Mais heureusement que je suis là pour expliquer.
Un mot qui est caché par un poète-poète.
Il faut moment de remplacé par un poète-poète.
Claude, est-ce que vous pouvez expliquer, vous, à Gaspard?
Eh ben voilà. Le garçon qui est de l'autre côté, là, dont on entend la voix, mais je m'en rappelle plus.
Avec des moustaches.
J'aime beaucoup, hein, mais je ne me rappelle plus son nom. Oui, avec des moustaches. Il est charmant. Alors, lui, il va nous dire... Il va nous chanter neuf chansons. Mais il y a, par moment, dans ces chansons, il y aura pas... Poète, il va remplacer un mot par poète-poète.
Voilà, oui.
Et il faudra que tu trouves... Vous trouviez, moi, je suis dispensé.
Moi, il n'y a personne qui joue, quoi.
À quoi correspond ce poète-poète?
Voilà, par exemple, il dit plus poète-poète que le poète-poète de mais tes c'est... yeux. Alors tu dis bleu, t'as gagné.
Ah donc, bon, ça veut dire que mes poète-poètes peuvent valoir pour un mot.
C'est toujours le même.
C'est pas forcément un nom composé, poète.
C'est une maison, poète-poète. Adossé à la...
Et voilà, tu par exemple.
D'accord.
Et oui, oui.
Le drapeau poète-poète blanc-rouge,
il m'a frappé comme un malade, j'ai des poète-poète partout.
Mais bien sûr, ouais.
Voilà.
Ouais. Dis donc, t'es nouveau à l'armée, t'es un poète-poète.
C'est un jeu que. Il a fait toute sa fortune sur ce jeu parce qu'il a vendu à l'étranger, il a vendu partout.
C'est poète-poète, poète-poète.
Ça dépend des pays.
D'ailleurs, t'as qu'à prendre ton poète-poète.fr, tu l'as sur ton ordinateur.
Serge, il ne s'agit pas de bleu, heureusement. Le mot qu'il faudra deviner derrière poète poète.
Parce que c'est par exemple, je te fais poète poète, tu me fais. Là c'est un piège. C'est un piège. Ça veut dire que le mot à trouver, c'est vraiment poète poète.
Qui a déjà une ville à son nom, un pont à son nom et aura peut-être une journée internationale en 2010?
Avignon.
Pardon ?
Avignon.
Il y a bien un mec
Avignon. Pont d'Avignon, d'accord, mais
il y a bien un mec qui s'appelle Avignon.
Alors aujourd'hui, c'est la journée d'Avignon. Donc, tout le monde me parle comme ça toute la journée.
Il y a l'historien Jacques Marseille, il y a bien peut-être un mec
Marseille
qui s'appelle
Avignon.
Francis Avignon ?
Ouais, bien sûr. Alors vous allez me sortir tous les noms de ponts alors.
Les noms de villes, les noms de villes aussi, c'est pareil.
Édouard VII.
Elle est défoncée, Motro, en fait. Elle a pris de la cam avant de venir.
J'ai l'impression que Claude Sarraute lui a filé des trucs.
Ouais, c'est ça.
Alors, non, c'est quelqu'un qui a déjà une ville qui porte son nom, un pont qui porte son
nom. En France ?
Et, non, c'est pas en France. Ah. Et qui, peut-être,
vivant ou mort ?
Vivant, en plus, parce qu'ils ont décidé, évidemment, de ne pas attendre sa mort parce qu'ils trouvent que c'est trop long.
Donc c'est quelqu'un de très important. Ah, c'est quelqu'un de très vieux, alors.
Eh ben oui, évidemment. Oui, il n'y a pas encore un pont Stevieville.
Oui. Il doit y avoir un tunnel, Stevie, mais...
Non, écoutez, franchement, joujou.
Une décharge.
Ouais. Dans le tunnel.
Dans le tunnel.
C'est un Américain ?
Non, c'est pas un Américain du tout. Il a déjà un pont à son nom, une ville à son nom, et bientôt une journée internationale en 2010. Je peux même vous dire que ce sera le 18 juillet.
C'est un prix Nobel.
Nelson Mandela.
Nelson Mandela, bonne réponse de Jérémy Michalak.
J'ai failli. Hein.
C'est chouette d'avoir un pont. Moi, je trouve que c'est mieux qu'une rue, un pont.
Il est où le pont Mandela ?
Écoutez, je vous en pose la question.
Voilà, à chaque fois que je
tout à l'heure, il n'arrête pas
Ça paraîtra, ça paraîtra un minimum que vous soyez à même de nous éclairer là-dessus.
C'est le pont du centre-ville de Johannesburg.
Alors,
ça vous va, ça comme réponse.
Très bien.
Et de mémoire, je vous le fais en plus. Et la ville, vous ne voulez pas savoir où aller, la ville ?
Elle est en Afrique du Sud, voyons.
Alors, c'est Port Elizabeth qui a été rebaptisé Nelson Mandela Bay. Voilà. Elizabeth n'est pas contente parce qu'elle avait un beau port. Elle avait un port à son nom.
Ça, c'est pas mal, un port à ton nom.
C'est mieux qu'un pont.
C'est mieux qu'un pont.
Encore. Hein. Voilà, et depuis 2003, donc, Port Elizabeth.
Elle est shootée ou quoi ?
Quoi ?
Mais vraiment, je m'inquiète là.
Quoi ?
Isabelle, il y a un truc là, je crois. Hein.
Ouais.
Elle a pris du popper, je suis sûr.
Je crois que j'excite.
Ah oui, je crois. Ouais.
Je vois que son mari a accepté la baiser hier pour la journée de la gentillesse.
Hier, c'était.
Il était en avance.
Non, mais c'est dit qu'il a accepté ce matin, alors.
Mais c'est vrai, elle est dans un drôle d'état.
Ouais, c'est bizarre.
Mais pourquoi c'est bizarre, il y a Fabrice Eboué. Dès qu'il sort, il vient de se mettre en pyjama d'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est-à-dire qu'en fait, il est en prison le reste du temps, donc il sort avec son costume à rayures.
C'est un t-shirt marinière, c'est la mode, les marinières.
Ah bon,
c'est...
Ah oui,
c'est
ça. Quand j'avais 5 ans, je portais ça. Non, c'est assez curieux quand même.
Ça, je dois dire. Que ça
tu es sûr, il a rentré, il a bien rentré dans son slip, tu sais.
Pour pas avoir froid.
Non, je suis sûr que c'est à la mode, ça.
C'est à la mode, ça.
À Deauville, ouais. Avec un labrador sur la plage.
Non, mais c'est vrai.
Ah ouais, ouais.
La marinière, c'est à la mode.
Avec des petits mocassins.
C'est ça qu'en baudoulière.
Ah, c'est pas le grand concours de la virilité autour de cette table, crois-moi. Non, franchement.
Pourtant, je suis là.
Franchement, là, Éboué, c'est ridicule votre petit pyjama, là.
C'est vrai que c'est curieux.
Attends, tu te fous de sa gueule avec ses fringues, mais t'as vu comment t'es habillé, toi ?
Moi, j'ai un pull.
On dirait une secrétaire russe des années 50.
Mais je suis une secrétaire russe des années 50. Qu'est-ce que vous
croyez ?
C'est
les gonzesses qu'on ramassait à Vladivostok après-guerre. Mais attends, calme-toi.
Moi, j'étais pas née, mon pauvre. Moi.
T'as gardé le look.
Le look.
C'est beau, il est magnifique.
C'est vintage.
C'est une élégance, c'est fine rayure. La prestance de ce garçon, regard sombre et clair en même
c'est
temps.
Fémin, ouais.
Hein, mec merveilleux, drôle, intelligent, qui vous supporte tous depuis des mois.
Est-ce qu'il y a des boutons derrière là, des...
Non, mais dis donc.
Arrête, Isabelle. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. T'as regardé comment t'es maquillée ce matin ?
Ouais, ouais, j'ai
T'as un côté
rouge,
porno exprès. Amateur, c'est très gênant. Ça. T'as un côté,
je suis contente que tu l'aies remarqué.
En fin de journée de tournage. Quoi.
Je me suis dit.
Moi, j'ai même le titre du film. Motro, boulot, sodo.
Pendant les vacances de 15h30 à 18h sur Europe 1, on redécouvre ensemble le meilleur dont va se gêner, c'est-à-dire les vannes, les blagues, les jeux de mots de Laurent Ruquier et de toute son équipe.
Est-ce que dans la presse, vous avez pu voir le nom, et auquel cas dites-le-moi, de celui qui, de temps en temps, donnait un coup de main au bar Léon Tolstoï de Villeurbanne. Qui donnait de temps
Tony
en temps...
Tony Musuline.
Pardon ?
Tony Musuline.
Qui est ?
Le gars qui a détourné le bras.
Bonne réponse de Fabrice Éboué.
Elle a devant les yeux.
Non, c'est pas ça. C'était à Lyon. Villeurbanne, c'est à côté de Lyon, c'est tout.
Mais oui, c'est impeccable. Voilà.
Alors expliquez, effectivement, il s'agit du convoyeur qui est parti avec les 11,6 millions d'euros.
Ils viennent de retrouver l'argent.
Pas tout.
10 millions, le pauvre, il a plus rien.
Il lui reste 1 million.
10 millions, le pauvre, il a plus rien. Il avait 11, maintenant. Merde, il avait 11, putain. Et pourquoi il a pas mieux. Pourquoi il a pas mieux planqué son.
Pourquoi il a planqué l'argent d'abord ? Pourquoi il n'est pas parti avec ? Je comprends
pas.
C'est
lourd.
C'est bizarre. C'est lourd. Peut-être qu'il s'en foutait de l'argent, il voulait juste piquer le camion.
Non, le camion, il l'en trouve aussi.
Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Il est pas malin, parce que quand tu fais un coup comme ça, en plus, il risque rien.
Oui.
Il risque juste vol de bagnole. Il a tué personne, il a pas braqué.
Il risquait 3 ans, en fait.
Maximum.
3 ans maximum, voilà.
Et il gardait l'argent ou pas ?
Ah oui, on nous disait même, c'était écrit dans tous les journaux, que s'il était malin, il planquait bien l'argent.
Mais oui !
Quitte à se faire prendre, c'est pas grave. Il faisait ses 3 ans et en sortant.
3 ans en prison, ils savent que le mec, il a 11 millions qu'il attend.
Il a le temps de se faire découper en lanière.
Il est tranquille, quoi.
Ah oui, mais quand même, c'est pas mal.
Il ressort de là déguisé en bouillon cube.
Mais ça, c'est parce qu'il a fait son coup tout seul. T'as raison.
Il aurait partagé avec nous.
Mais oui, moi, j'aurais planqué l'argent chez moi.
Il aurait fait avec quelqu'un d'autre, il risquait plus qu'il y avait association de malfaiteurs.
Ce qui est horrible dans cette histoire, c'est quand t'entendais les témoignages de ses collègues, tu sentais tous un peu d'amertume dans leur voix. Ils disaient, putain, moi aussi, je rêvais de le faire depuis des années, j'ai jamais eu les couilles. Ils étaient un peu fascinés par le mec. C'est ça qui est extraordinaire.
Ben oui, parce que en plus, il devait les rendre jaloux du fait qu'il avait une Ferrari, paraît-il, qu'il avait quand même un peu de pognon.
Il avait déjà volé avant un petit peu.
Vous croyez ?
Oui.
Non.
Il vivait bien.
Il aurait dû prendre en complice Jean-Pierre Trébert, parce que lui, il se planque bien, par contre, tu vois.
Ça, c'est vrai.
Il aurait dû sous-traiter la cavale, oui.
Parce que le pire, c'est que Jean-Pierre Trébert, il passe devant les caméras. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un convoyeur, de l'autre, vous avez un exhibitionniste intelligent.
C'est incroyable.
Et alors ils l'ont attrapé alors ?
Non, lui ils l'ont pas attrapé.
Ils ont trouvé le pognon dans une bagnole qui est dans.
Mais comment il a pu laisser son pognon comme ça ?
Dans une bagnole. Et puis surtout, je voulais savoir qui a retrouvé le pognon surtout.
Ben, ils ont remonté parce qu'il avait loué cet emplacement de parking. Et les enquêteurs ont
à son nom.
Oui, je crois.
C'était chez lui sous son matelas, donc ils n'ont pas cherché longtemps.
Son nom, il s'est fait avoir. Il a pas joué film.
Ah non.
J'ai devant les yeux le dessin de Rançon dans Le Parisien aujourd'hui, qui, ou peut-être hier dimanche, qui est assez rigolo. Ce dessin, on voit un convoyeur, on imagine que c'est lui, qui dit « J'ai patiemment attendu que les banquiers fassent à nouveau des bénéfices insolents. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. » D'habitude, il n'a pas le droit, normalement, en plus de transporter autant d'argent, on nous a dit. Alors, il y a quand même, il devait pas être tout seul dans cette affaire-là.
Non, mais il paraît qu'il a parlé au banquier en lui disant « Non, mais je vais vous les prendre, les 4 millions de plus, là, c'est pas grave, on va pas envoyer un deuxième camion. » Et l'autre a dit « Oui.
» Oui, c'est ça.
C'est bizarre, quand parce on que normalement, ils sont assurés. Ouais, quand on y va, nous, ça fait pas ça.
Quand on dit au banquier « Bon, vous pouvez pas nous donner 3 ou 4 millions de plus pour la maison qu'on veut acheter. »
Non, ça marche pas.
Ça marche pas.
C'est dingue. Hein. Mais il faut avoir un camion, c'est parce qu'on n'y va jamais en camion.
Et votre après-midi se poursuit avec Laurent Ruquier et toute sa bande. C'est le meilleur dont va se gêner. Et dans ce nouvel extrait, une question télévision.
France Télévisions a engagé quelqu'un pour les Jeux d'hiver 2010, c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année prochaine, qui se dérouleront Jeux d'hiver au Canada. Qui a été engagé par France Télévisions pour commenter, enfin aider les commentateurs sportifs habituels de France Télévisions?
Pierre Fula?
Non.
Franck Picard?
Non.
Grosjean? Non.
Grosjean, non, non.
Non, mais c'est un mec comme Jean Rochefort qui aime le voilà. truc.
Un peu, voilà, comme Jean Rochefort.
Dans l'idée sur l'équitation, quoi.
Mais physiquement, pas tout à fait comme Jean Rochefort.
Ah, celui qui est en fauteuil roulant?
Non.
Farrugia?
Farrugia, non.
Il n'est pas du tout sportif, en fait.
Il a été sportif.
Mais il aime le ski.
Le ski, il n'y a pas que le ski aux Jeux Olympiques d'hiver.
Ah, Wilson Nelson Montfort?
Non, 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 Nelson Montfort.
Wilson Nelson. Wilson Nelson. Underground.
On again.
J'essaye. Hein.
Bon, alors, les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent au Canada. France Télévisions, tiens, qui on pourrait prendre pour commenter les JO d'hiver qui apporterait une petite touche
Gilbert Rozon.
Original, non pour.
Gilbert Montagnier.
Non, non.
Garou.
Garou, c'est pas bête, Garou. Non. On se rapproche, mais c'est pas
Garou. Un Québécois.
Un Québécois.
Ah, bah, c'est, un comédien. Assez tout seul sur le sable, les yeux dans
Rock
l'eau,
voisine.
Non
Rock voisine. Voisine.
Ah, c'est moi qui l'ai dit.
Bonne réponse d'Arnaud Lemort.
On gagne rien.
Et Evangélie.
On va aller jouer club, génial.
Rock déjà, j'aimais pas le ski, mais maintenant que c'est Rock voisine.
Non, mais attendez, il est sportif
qui
de quoi?
Qui commente, alors, vraiment.
Ah, il est bien gaulé, Rock voisine.
Mais
Rock
oui, mais il, est sport, il a fait quoi comme sport?
Il a fait du hockey. Il était hockeyeur.
Ah oui,
il a coupé du bois aussi.
C'est Rock voisine qui commentera des sports un peu moins connus chez nous, mais connus au Canada, comme le short track, le skeleton ou le curling, vous voyez.
Ah, le curling.
C'est moi, je connais le curly, mais je connais pas le curling.
Le curly, c'est quoi?
C'est un bar.
Les chips apéritifs.
Et c'est des apéros non, c'est
des... Y a pas de... À part chez vous, il n'y a pas de compétition de cacahuètes, Stevie, vous voyez.
Mais Vécu, attendez, on fait les marioles, mais les deux premiers sports, on n'en a jamais entendu parler.
Ah si, le squeletton, on en a entendu
squeletton,
parler.
Bien sûr.
Pierre, expliquez.
Des gens très maigres qui font un combat de catch entre les deux, t'appelles le squeletton.
Et il faut téléphoner pour voter. Exactement, pour Pierre Berger.
Le téléthon et squeletton.
Alors vas-y, Laurent, c'est quoi le squeletton?
Je crois que c'est de la luge, en fait, le squeletton, me souffle-t-on.
Ah, exact, oui.
Est-ce que c'est le truc que faisait, oui, voilà, genre bobsleigh?
Le bobsleigh.
Bah non, le bobsleigh, c'est le bobsleigh.
Le bobsleigh a commenté le bobsleigh, c'est génial, quoi. Et il est parti, il est arrivé.
Avec le travail, les enfants ou la paperasse, vous avez parfois raté Laurent Ruquier et sa bande. Eh bien, séance de rattrapage pendant les vacances avec le best-of dont va se gêner. Mais aussi, n'oubliez pas les podcasts de l'émission disponibles quand vous le voulez sur le www.europe1.fr.
Europe 1, on va se gêner. La question intelligente
qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
Depuis octobre 2007, il y en a 35 à Besançon et c'est manifestement une bonne idée puisque ces modèles, il y en a 5 modèles différents, mais 35 en tout.
Des voitures électriques.
Des voitures électriques à Besançon, non, ont manifestement prouvé leur efficacité. D'ailleurs, j'en ai la preuve sur une photo que j'ai pu découvrir dans France Soir. Qu'est-ce qu'on a installé, on en a installé 35 panneaux, je peux même vous aider, 35 panneaux dans Besançon. Mais des panneaux qui servent à quoi?
C'est lié à la circulation automobile?
Du tout.
C'est écologique? Solaire?
Écologique, il y a un petit côté écolo. Ouais, mais...
c'est des panneaux avec de la glu dessus pour ramasser les petits vieux errants et c'est écrit tout petit.
Donc ça, ils approchent pour lire, ils se collent. Et puis après on les met dans un car à vieux. C'est comme les machins pour les mouches à merde. C'est, là, voilà.
Pour les vieux.
Ben, c'est un truc pour ramasser les vieux.
Et ben, ce qui
dans certains quartiers, parce que les oui, vieux, c'est pas toujours propre. Hein. Ils les ramassent, puis ils les nettoient dans le doux.
Ouais. C'est drôle ce que vous dites.
Mais là, c'est pas drôle, c'est la réalité.
Mais c'est pas la réalité, c'est pas la réponse à ma question. Mais finalement, ça pourrait. Ce que vous dites là, ça pourrait être la conséquence de ces panneaux.
Mais oui, c'est bien pour
parce
ça que
les
vous
vieux
en parle.
Pourraient effectivement se coller à ces panneaux.
Ils se collent dessus, ouais.
Pour quelle raison ?
Ils pourraient se coller.
Ouais. 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 Mais dans un deuxième
chauffant
temps.
C'est chauffant, c'est desséchant.
Non.
Ça, ah, c'est pour attendre le bus, par exemple, chauffant, c'est des panneaux chauffants.
Non.
C'est comme pour les chiens, c'est des petits parcs bac à sable pour que les vieux fassent caca.
Non.
Il y a comme une douche, il y a un bouton, on appuie, on a droit à un peu de canicule pour claquer au chaud.
Oubliez les personnes âgées parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde, ceux qui, enfin pas tout le monde, mais une bonne partie de la population.
Ils ont fait avec la crise, ils ont fait comme des petits barbecues un peu partout.
Mais au début, ça colle.
Faire des grillades, des
non,
trucs
non,
comme ça.
Au début, ça colle pas.
Mais ça indique quelque chose.
Ça colle quand on reste trop dessus.
Non. Ça finit par coller, mais pour une bonne raison.
Ah bon ?
C'est
ah
bah du miel, bah, je sais pas. C'est quelque chose qui, comme des raison, bougies, là. De la ah oui, cire.
C'est des abris.
De la cire.
C'est des abris pour prostituées.
Non.
Ça colle à la fin.
Non.
Il y a de la cire ?
Non, mais on se rapproche là quand même de la bonne réponse.
Ah bon.
Il y en a 35 à Besançon.
C'est grand ?
Ah, c'est des panneaux comme les panneaux publicitaires que vous pouvez voir.
Ah oui, donc c'est grand quand même.
Ah oui,
des sucettes.
C'est dans les Vosges, Besançon ?
Non, c'est dans le Doubs. Tiens-toi, monsieur. Kersauzon.
Astuce de classe de 5e.
C'est comme des poubelles ?
C'est-à-dire ?
C'est pour poser quelque chose dessus. Est-ce que c'est pour épingler, mettant des post-it, des trucs comme ça ?
On se rapproche, monsieur Titoff.
Oui, alors ?
C'est dans la rue ?
C'est des panneaux sur lesquels on met des ballons magnétiques.
Et ça colle après,
c'est
ça colle.
Des panneaux d'affichage.
On met des chewing-gums.
Voilà.
Alors, c'est-à-dire
Chacun pose son chewing-gum.
Voilà, pour éviter
que ça colle par terre.
Bonne réponse de Titoff. Des panneaux à chewing-gum.
C'est complètement idiot.
Ah, c'est bien, en période de grippe A, comme ça, c'est une bonne idée, je trouve.
Colle ici ton chewing-gum, par terre, t'es à côté de la plaque, c'est ce qui est écrit sur ces panneaux. Et effectivement, les bisontins, puisque ce sont le nom, c'est le gentilé des habitants de Besançon, bisontins. Eh bien, pourquoi vous riez-vous, Kersauzon ?
Je connaissais pas le mot gentilé.
Ah oui, mais on a appris ça ici.
Ah, hein. Bah,
c'est
oui.
Quoi votre gentilé à vous ? Vous êtes né où, vous, monsieur de Kersauzon ?
À Bonnétable.
Bonnétable ?
Oui.
Oh mon dieu, il l'a osé quoi. On a tous pensé, on a dit bon, ouais, c'est passé ça quand même. Puis...
Je savais même pas que ça existait, Bonnétable.
Ah si, la Bretagne était bombardée de tous les côtés à l'époque.
Ah ouais ?
J'étais réfugié, j'étais en résistance moi.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, vous m'épatez.
Ouais, bah oui, mais je sais que tout ça, ça te dépasse. Tu vois que les panneaux, on colle des chewing-gums pour attirer des vieux affamés qui viennent mâchonner le long du panneau.
Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'était pas loin.
Ouais, mais
parce que c'est vrai, au bout d'un moment, quand il y a tous les chewing-gums de la ville sur le panneau.
Il y a des vieux qui lèchent.
Pour prendre du sucre un peu.
Prendre un peu de glucose.
Non, mais c'est vrai que c'est bien parce que là, ils avaient refait tout le centre-ville à Besançon.
À cause des chewing-gums.
Non, mais oui, parce qu'il y a un moment donné, ils se sont dit quand même, on va pas ressaligoter tout.
Non, mais il y a vraiment des gens qui ont rien à foutre.
Hein. Comment ça ?
Oh là là, inventer des panneaux à chewing-gum, mais
ça, c'est pas marrant de marcher sur les chewing-gums.
Ça abîme par terre. Et vous seriez à Singapour.
Tu aurais une amende.
On pourrait faire la même chose avec les crottes de chien, tu sais.
Et bon après-midi à tous, tout de suite dans le best-of dont va se gêner. Mais qui est donc ce ravisé Jillard qui a tant fait parler de lui dans l'actu ? La réponse avec Laurent Ruquier et sa bande sur Europe 1, bien entendu.
Pourquoi reparle-t-on de monsieur ravisé Jillard dans la presse aujourd'hui ?
Il y a son prénom là-dedans ?
Pardon.
Non, c'est son nom de famille, Ravisé Jillard.
C'est son nom de famille.
Ah oui, parce qu'il veut changer de nom et qu'il a bien raison.
Non.
Mais non. C'est en deux mots.
Ravisé Jillard.
Ça a trait à la justice.
Oui, on peut dire que c'est une décision de justice.
On en reparle. On en a déjà...
Mais si vous écoutez bien la question, et peut-être si vous faisiez attention à mon intonation, n'est-ce pas, vous auriez tout de suite la réponse à cette question. Vous voulez que je vous la refasse avec le ton ?
Oui, avec le ton. Mais en français ou en allemand ?
Vous êtes tellement KO que vous ouvrez les yeux à peu près 10 secondes par minute.
Ah oui ?
Je fais des chronos en français. C'est vachement impressionnant. On a l'impression qu'aucune bête ne pourrait faire ce que vous faites, tellement c'est extraordinaire comme combat.
Alors, je repose la question avec le ton, vous allez voir.
Ah, oui.
pourquoi reparle-t-on de Monsieur Ravisé Giard dans la presse aujourd'hui?
Je sais, c'est parce que c'est une jeune fille.
Elle avait son oui.
Et on l'a réclamé pour le service militaire.
Voyez quand je mets le ton.
Bonne
réponse de Claude Sarotte et Pierre Bénichou. Alors maintenant, est-ce que de façon intelligible, vous pouvez expliquer les choses? Claude, allez-y. Alors,
Delphine. Alors voilà, c'est une jeune fille qui a voulu changer de nom, changer de sexe, ce qui est d'ailleurs très très difficile.
C'est pour le contraire.
C'est l'inverse, un jeune homme.
C'est l'inverse.
Un jeune homme. Alors là, ça marche mieux. Parce que quand une jeune fille vous dit qu'elle s'est fait greffer un sexe pour devenir un garçon, croyez-moi, ça ne tient pas.
Tu as une expérience malheureuse déjà?
Non,
comment
mais
ça, ça ne tient pas?
T'as vu?
C'est suite à une panne de courant au Brésil.
Non, mais c'est à la suite d'un malentendu.
Ah oui.
Pas parce qu'ils l'ont appelé pour le conseil de Ravision.
Écoutez, Ravisé Giard, c'est son nom. Ouais, bah, Delphine, c'était son.
Toi, tu souris parce que tu vois. C'est drôle, ça.
Ça correspond à une vraie culture.
Ils savent pas ce que c'est que le conseil de Ravision.
Bah, voilà, si.
Planqué, oui,
c'est pas ça, c'est qu'il fallait se rappeler qu'elle s'appelait Ravisé Giard pour comprendre votre jeune mot.
Bah oui, Ravisé, oui.
On s'en fait casser la gueule en 14 et en 18, ces petits cons, ils savent rien.
Bien sûr,
elle s'appelait.
C'est battu pour rien, en fait.
Ouais, pour rien.
Elle s'appelait Thierry.
Il s'appelait Thierry.
Oui, pardon.
Ouais. Ça fait bizarre,
elle s'appelait pas Thierry. Ouais. Ou alors elle s'appelait Thierry chez Michel.
Il s'appelait Thierry, elle était devenue Delphine. En tout cas, voilà, son employeur, l'armée, reconnaissait son changement d'apparence jusqu'à ce que, manifestement, quelqu'un au ministère de la Défense prenne une décision contraire. Et on a évidemment les associations qui défendent les transsexuels ou les transgenres, je sais pas comment on doit les appeler, qui en appellent au ministre pour que Delphine puisse continuer à se faire appeler Delphine et qu'elle ne redevienne pas Thierry.
Non, mais c'est vrai que quand tu t'appelles Thierry, tu te fais appeler Delphine et tu travailles chez Michou, dans un cabaret ou n'importe, c'est moins difficile à faire admettre que quand t'es employé dans une caserne.
Oui.
Mais non, puisqu'elle s'est fait transformer.
Oui,
elle a plus de pénis.
Oui, d'accord, la
plus pénis,
sa femme ne reste pas à la caserne.
Ben oui, mais il y en a plein des femmes dans l'armée.
Elle aime
l'armée, elle aime être une femme.
Mais c'est surtout pour le bizutage que c'est gênant, pour lui faire la bite au cirage, tout ça et tout.
Non, ça, franchement, monsieur Titoff, vous n'avez même pas fait l'armée, vous. Alors,
non,
pas...
non.
Ah, vous bah
non,
pas
j'ai
pas
trois reins. J'ai
pas
trois reins, donc j'ai pas fait l'armée.
Ici, il n'y a personne qui a fait l'armée.
Moi, j'ai que deux reins, Rhin et Danube. Moi,
peut-être monsieur de Kersauzon a fait l'armée.
Bien sûr, j'ai fait l'armée.
Ah, où est-ce que vous avez fait l'armée, monsieur de Kersauzon?
Sur Penduic 3.
Et vous appeliez Olivier?
La marine. Ouais.
Vous appeliez Olivier, c'était vos.
Non, il s'appelait Chantal à l'époque. J'ai été agressé par. Ils m'ont greffé un. On était plusieurs, Tabarly s'appelait Monique aussi. On était plusieurs, là, j'ai dit, écoutez, c'est les filles, c'est bien, mais comme vous représentez la marine française à travers le monde, vous greffez des pénis, donc nous on greffait des pénis. Moi, ça se passe très
pénis
bien.
Pénis 1, pénis 2, pénis 7.
Ouais. D'où le nom. Ouais,
d'où, pénis, le nom
ouais.
D'où le nom du bateau, oui, bien sûr.
Ouais. Le problème, c'est qu'on est obligé de les raccourcir, parce que ça pousse. Donc, ça, on est obligé de les raccourcir tous les 2-3 ans, d'enlever une dizaine de centimètres, quoi, voilà. Mais c'est pas une souffrance, on vit très bien. Hein.
Ah oui.
Ah ouais, ouais. En plus, depuis le temps, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça, moi. J'ai oublié l'époque où j'avais mes petites nattes, mes robes roses, hein, mes sandalettes,
ouais, où, ta petite voix aiguë.
Où je lisais en pleurnichant, parce que j'étais très sensible avant qu'on me graisse cet énorme paf. Là. J'étais très sensible. Moi, quand je lisais la Bibliothèque Rose, la mère MacMiche et tout ça, qui tapait les enfants et tout, je pleurais au coin de l'âtre, dans cette Bretagne lointaine.
Mais moi, je voyais bien une petite Jocelyne ou une petite Monique qui sommeillait en vous, Olivier.
Ouais, tu vois ce qu'elle va te faire.
Écoutez, je veux pas défendre mon mari, mais vous l'avez cherché.
Gaspard, vous avez fait l'armée, vous?
Oui, moi j'ai fait l'armée, mais j'étais réformé au bout de 5 jours, parce que je confondais les termes chargé et feu.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre après-midi jusqu'à 18h. Les meilleurs moments dont on va se gêner, si vous êtes en train de travailler et que vous n'avez pas de vacances, vous pouvez compter sur Laurent Ruquier pour vous dépayser. Tout de suite, direction la Pologne.
Je vous emmène en Pologne, ou dans le métro, ça va faire plaisir à Isabelle Motro, qui va peut-être nous dire pourquoi Piotr Zadvnorny.
Non, je crois pas.
En fait, c'est quoi ça?
Je crois que je vais pas vous le dire.
a été engagé par le métro de Varsovie. Pourquoi Piotr Zadvnorny a-t-il été engagé par le métro de Varsovie alors que Piotr Zadvnorny a un métier très très particulier?
Il est peintre ?
Il n'est pas peintre.
Faut trouver le métier d'abord.
Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà un homme pratique, rationnel.
Est-ce qu'il est démineur ?
Démineur.
Ouais. Ça n'a pas à voir avec une attaque terroriste.
Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Est-ce qu'il fait de la décoration dans le métro ?
Mais bien sûr, bien sûr.
Bah, je sais pas, il pourrait repeindre ou mettre des fresques, des tableaux, enfin.
De la Joconde ?
Non, pas forcément, mais.
Non, c'est en Pologne.
C'est un dératiseur.
Non, non, non. Non, mais alors il y a un rapport animalier, je dois dire.
Ah, les cafards.
Non, non, non. Alors en fait, Piotr Zadvorny, je vais vous aider, il est éleveur, bravo, dompteur. Oui, on peut dire
dompteur. De puces.
De puces.
Alors non, pas de puces. Il est éleveur, dresseur.
De chiens, de chiens.
Non, 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 non.
De chevaux.
Non, non, non.
De cheval, de chat dans le métro, c'est vrai que.
Non, non, non.
De rat.
De rat, non.
De lézard ?
De lézard non plus, non, 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 non.
De mouche ?
De, non. Éleveur de mouches.
Oui, c'est pour les faire des métro-mouches. Pour développer le tourisme. Non,
qu'est-ce qu'il y a comme bestiole dans le métro ?
Alors, ne cherchez pas ce qu'il y a comme bestiole dans le métro, parce qu'il a été appelé pour apporter un de ces animaux dans le métro, justement. Il y en avait.
Ah, des asticots ?
Non.
Des oiseaux.
C'est vrai, des asticots. Dompteur d'asticots.
Eh ben, ça bouffe tous les restes de casse-croûte.
Dompteur d'asticots, t'imagines.
Des oiseaux, des oiseaux ?
Alors, lui, effectivement, il est éleveur d'oiseaux, mais pas n'importe lesquels.
Des perroquets.
Non, 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 non.
Des faucons, des prédateurs.
Voilà, de rapaces. Ouais. Il est éleveur d'oiseaux rapaces.
Et qui vont chasser les rapaces. Le rapace, le métro tremble.
Les fauconniers ?
T'as vu du coin. C'est un vieux dicton en slovène.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Magnifique !
J'ai pas entendu. Dans le micro, Olivier, j'ai pas entendu.
Trop tard.
Vous êtes trop loin du micro.
Non, non, je suis juste à côté.
Mais Stevie, mettez-lui le micro dans la bouche, Stevie.
C'est clair, il va me taper.
Continuez comme ça.
Non, je veux dire. Oui, alors.
Mais
parce que moi, j'ai très bien entendu, évidemment. Et quand le rapace, le métro aboie, c'est ça.
Oui.
Non, écoutez, alors, il a effectivement un rapace. Je vais même vous dire quel genre de rapace, un épervier. On lui a demandé de venir avec son épervier dans le métro. Pourquoi ?
Pour attraper les rongeurs.
Ah, mais c'est un jeu,
pour
ça.
Attraper les souris.
Pour faire peur aux pigeons.
Pour les pigeons. Bah, bonne réponse, Olivier de Kersauzon. Qui, après 400 films, a décidé de faire son retour au cinéma. Et d'ailleurs, le film s'appellera 1-1-1-1-1, He's Back. Qui est de retour ?
C'est un acteur ?
Un acteur.
Il y a 5 syllabes ou pas ?
400 films ?
400 films.
Américain, donc. Hein.
Il avait décidé d'arrêter et on nous annonce 5 ans après... son annonce de retraite, 5 ans après sa retraite, on nous annonce qu'il reprendra du service. Et d'ailleurs, le titre du film sera 1-1-1, c'est son nom, He's Back.
Sean Connery, Sean Connery, Sean Connery.
Non, un Américain.
Pas un Américain.
Attends, 1-1-1, il y a 3 syllabes ?
Ah non, non, quand je fais
1-1-1. Ah d'accord, je crois que c'était...
1-1, si vous préférez.
Un anglais ?
Ah, lui, il est à fond dans le jeu tout le temps.
Un anglais ?
J'aime bien quand il fait 1-1.
C'est pas un anglais.
Un français ?
Non, pas un français.
Ah bon ?
Qui est de retour ?
Un albanais ?
400 films.
Non, c'est un mec de Bollywood.
Non, pas un indien.
Eh, mais c'est un acteur ou c'est le personnage qu'il incarne ?
C'est un acteur et en même temps, c'est un personnage. Et c'est vrai qu'il avait fait 400 films, que le jour de ses 40 ans, il a dit « j'arrête ». 5 ans plus tard, il revient. Et d'ailleurs, le film s'appellera
« 400 films à 40 ans ». 400 films à 40 ans ?
400 films à 40 ans.
C'est au moins un indien, ça, non ?
Un indien du tout.
Ah bon ? Mais il vient d'où ?
Ah ben, je vais vous le dire.
Il est européen ?
Européen, oui, monsieur.
Ah bon ?
Et très, 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 très connu.
Espagnol.
Pardon ?
Espagnol.
Non.
Il a eu un Oscar, un César, une récompense
Il a eu des tas de récompenses, oui.
Mais
Oscar, César ?
Pas Oscar, pas César.
400 films, c'est pas possible, 400 films.
Il est belge ?
Non, il n'est pas belge.
C'est un chien ?
C'est pas un chien. Non, mais il a tourné avec des chiens.
C'est vrai que des films, des chiens de 40 ans, c'est très...
Il a tourné avec des chiens ?
Il est vivant.
Il a tourné avec des chiens ? C'est un os ?
Non. En tout cas, il est connu pour...
Rocco Siffredi ?
Rocco Siffredi, bonne réponse !
J'ai été sûr, j'ai dit c'est pas possible.
Rocco Siffredi annonce son retour. Il reprend du service avec Rocco is back. 5 ans plus tard, il avait annoncé le jour de ses 40 ans qu'il renonçait au cinéma X. Et après 400 films, il revient. Rocco is back. Il aura donc 45 ans.
C'est quoi ces grandes récompenses ?
Il a eu plein de récompenses.
Il a eu
la matraque italienne.
C'est passé récemment sur Paris 1er, un bout des hot d'or. C'était quelque chose.
Le prix d'interpénétration masculine.
Mais c'est vraiment ça, t'as vraiment les trucs genre meilleur sodomie de l'année, la fille vient, elle remercie ses parents, tout ça, c'est quelque chose quoi.
va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu.
Pourquoi l'astronaute américaine Lisa Nowak avait-elle porté une couche culotte pour adultes? On reparle d'elle dans la presse aujourd'hui et on se demande, même si moi j'ai la réponse dans l'article, je vous demande pourquoi cette astronaute avait-elle porté une couche culotte pour adultes?
Parce que c'était plus une main d'enfant.
Comment ça?
Eh ben oui, elle a mis une couche culotte pour adulte parce que ça n'était pas parce un enfant. Parce qu'elle,
mais... Oui, mais je vous demande la raison pour laquelle elle portait une couche culotte.
Une couche culotte, je sais pas.
Pour l'espace, avec un petit tuyau, on peut mettre directement dans un récipient.
Eh ben justement, non, c'est pas dans l'espace que cette astronaute a porté une couche culotte pour adulte.
Ah, parce qu'elle avait accouché, elle fuyait.
Non, pas du tout.
Un déguisement.
Parce qu'elle a attrapé une gastro de l'espace.
Non, du tout.
Elle a perdu un pari.
Non, elle passait devant le tribunal cette semaine, et voilà pourquoi on reparle de cette affaire qui s'était déroulée il y a maintenant 2 ans. En février, un peu plus de 2 ans, en février 2007. Et qu'avait-elle fait en février 2007 avec cette couche culotte pour adulte qu'elle portait et qui fait qu'elle passait devant le tribunal cette semaine?
C'était peut-être pour manifester, pour faire passer un message?
Du
ou pas
tout.
Un combat de sumo féminin.
Oh, bah vous n'êtes pas si loin de la bonne réponse. Expliquez.
Ah non. Non, je m'arrête là.
Elle voulait se faire passer pour un homme, alors elle s'est mis des couches culottes pour se rembourrer.
Ah non,
elle
non,
était
non.
Jalouse d'une autre, mais alors je sais pas pourquoi la couche culotte du coup.
Ah, expliquez, parce que vous avez l'air de savoir, vous. Alors effectivement, on est
oui,
tout
c'est qu'il y a une histoire de jalousie en 2 cosmonautes, une qui voulait aller sur la Lune et l'autre aussi, et puis il y en avait qu'une qui était plus compétente que l'autre, donc l'autre irait pas. Mais de là à savoir pourquoi une porte une couche culotte.
Alors on n'est pas loin de la bonne réponse.
Elle était plus jeune que l'autre, donc.
Non, c'est pas ça du tout. Effectivement, Lisa Nowak en 2007 a provoqué un scandale retentissant. Et d'ailleurs, elle vient d'être condamnée à 2 jours de prison et 1 an de mise à l'épreuve. C'est pas beaucoup, hein, mais elle a été virée de la NASA, en revanche, depuis. Ah. Parce qu'effectivement, elle était jalouse d'une autre femme. Mais pas pour des raisons spatiales.
Pour un mec. Pour, une
pour un mec, exactement. D'accord. Pour un mec. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a mis une couche culotte pour adulte.
Oui, ça c'était dans la question, vous voyez, Joujou. Mais pourquoi elle a
parce
mis
que l'autre couche... était jeune, peut-être, l'autre femme de laquelle elle était jalouse.
Non, c'est tout. Pourquoi
elle faisait pipi au lit, l'autre, alors peut-être.
Pourquoi on met une couche culotte, en fait
Pour rire, t'as comme ça, de temps en temps, Lucien. Ouais. Aujourd'hui, je mets une couche culotte.
En soirée déguisée, bon. Ouais.
Non, c'est tout bête, hein, là. Elle habite Houston. Hein.
Ah, dis-le tout de suite, bien sûr.
Bon. Mais non, écoute, arrête. On met une couche culotte quand on ne peut pas retenir son bibi. C'est sa grosse commission.
Oui, d'accord, Claude. Oui. Mais c'est d'ailleurs la raison exacte pour laquelle elle a mis une couche culotte.
Eh ben justement.
Oui, mais pourquoi pouvait-elle pas justement
Elle était malade. Elle
non,
venait...
non.
Parce que le fait que ça soit l'autre qui parte, ça la faisait chier.
C'est pas ça du tout, mais.
C'est pas ça du tout.
Elle habite Houston.
Ouais, au Texas.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe
là-bas? Si t'as pas au moins 2-3 couches culottes sur toi, t'es foutu. Ils sont très sévères là-dessus. Ouais. Oui.
Ah ouais. Non, écoutez, elle quitte Houston en voiture.
Ah. Ouais.
Pour faire quoi?
Pour faire sa petite commission.
Mais non. Ah,
si je... Attends, je me souviens de cette histoire. Elle avait un long trajet à faire et du coup, elle voulait pas s'arrêter, donc elle avait mis sa couche.
Exactement. Racontez.
Non, je me souviens vaguement de l'histoire.
C'est pour pas perdre de temps.
Elle ne voulait pas perdre de temps pour arriver à rattraper sa rivale qui, elle, était à l'aéroport d'Orlando. Elle voulait attraper cette femme avant qu'elle prenne l'avion à l'aéroport. Et donc, elle a fait Houston, aéroport d'Orlando, 1500 kilomètres en fonçant en volant de sa voiture avec une couche culotte.
Et elle a trouvé Dalida là-bas ou pas?
Non, pas Orlando, la sœur de Dalida, Orlando.
Ah, mais pourquoi l'aéroport d'Orlando, il y a Dalida, elle prenait l'avion
la
là-bas.
La capitale de la Floride, vous voyez. Et elle voulait intercepter cette rivale féminine à l'aéroport d'Orlando, une autre femme qui appartenait à la NASA, officier de l'armée de l'air. Et donc, elle avait mis une couche culotte pour ne pas s'arrêter. 12 heures de conduite non-stop. Et d'ailleurs, la rivalité a été telle qu'elle a quand même réussi à la rattraper grâce à... Enfin, pas grâce à la couche culotte, mais elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas perdu de temps. Elle est arrivée à hauteur du véhicule de l'autre femme. Elle a tambouriné à la fenêtre, tenté d'ouvrir la portière. Elle s'est mise à pleuré, l'autre a légèrement baissé la vitre parce qu'elle a eu pitié pour cette autre femme qui tombe. Et là, tac, elle a aspergé de gaz lacrymogène, aveuglée. La victime a réussi tout de même à conduire sa voiture jusqu'au péage du parking où elle a prévenu le gardien. Lisa Novak, l'astronaute, a été interpellée. Dans son véhicule, les autorités ont retrouvé un fusil à air comprimé, une valise métallique, un canif de 10 cm, un tube de caoutchouc,
des couches-culottes,
des sacs poubelles, et elle portait sur elle des couches-culottes.
Et un body Bravo Hollywood.
Non,
c'était le filet garni.
Vous vous rendez compte un peu quelle histoire, jusqu'où la jalousie féminine.
Non, déjà, se faire tirer dessus, ça crame. Alors, se faire tirer dessus par quelqu'un qui est en couche-culotte, c'est...
Claude, vous connaissiez pas cette histoire?
Du tout, oui, elle est vraiment extraordinaire.
C'est une belle histoire.
Belle histoire. Hein,
il faut dire que Colin Shipman, l'officier de l'armée de l'air dont elles étaient amoureuses l'une et l'autre, est un astronaute vraiment un héros là-bas aux États-Unis. C'est une sorte de comment il s'appelle le mec de Tom Cruise, vous voyez. Non, il n'a pas été dans l'espace, Tom Cruise.
Non, comment
il
s'appelle le mec? Bruce Willis, il y allait.
Bruce Willis.
Will Smith.
Will Smith. Voyez,
qui... Armstrong.
Non, mais des plus connus, vous voulez.
Armstrong, il a joué dans la Lune.
Vous avez raison, Tom.
Il a joué de la trompette et il a fait du vélo.
Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1. Alors en ce moment, avec la neige et le verglas, c'est compliqué sur la route. Bon courage, faites attention à vous et surtout respectez le code de la route. Ce n'est apparemment pas ce qu'a fait la personne que cherche l'équipe de Laurent Ruquier dans ce nouvel extrait du best-of d'On va se gêner.
Qui a perdu 4 points sur son permis de conduire ce week-end en roulant à 135 km/h au lieu des 90 autorisés?
Sidney Govou.
Ouais, c'est ça, habituellement c'est Sidney Govou.
Non, c'est pas Sidney Govou.
C'est pas un footballeur.
C'était vendredi soir, sur la route donc, forcément, et dans l'Aveyron, pour tout vous dire. Et il roulait à 135 km/h au lieu de 90.
C'est un pilote de course?
Non.
Pas. Il était pressé, c'est quelqu'un qui était pressé?
C'est un gendarme?
Un gendarme, non.
C'est un coureur cycliste?
C'est pas un coureur cycliste.
Dans l'Aveyron, oui, c'est en France, oui. France l'Aveyron.
C'est un Français?
Oui, un Français.
Il était pressé, ce monsieur-là?
4 points de perdu sur son permis.
Mais attendez, qu'est-ce qu'on peut foutre d'autre dans l'Aveyron, le soir, que autre chose que de rouler à 135 km/h pour s'échapper de l'Aveyron, pour aller à la plage dans les Vosges, par exemple?
Ça a été très vert, peut-être?
Très bien.
Dans
l'Aveyron, si on fait des mesures de vitesse, la nuit, d'ailleurs... plusieurs mecs à 200-250 pour s'échapper de l'Aveyron.
Peut-être pas à Prades-Salars, hein. C'était à Prades-Salars que ça s'est passé.
C'est une vedette.
Et c'est les gendarmes de Rodez qui l'ont attrapé.
C'est une vedette.
C'est un chanteur.
T'es pas un chanteur.
Présentateur télé.
Non plus.
Un homme politique. C'est quelqu'un de connu alors.
Ah, c'est quelqu'un de très connu.
Ah, Gilbert Montagnier. Ouais. Un homme politique.
La nuit, ça le gêne moins.
Un homme politique.
Il fait comme les chauves-souris, il crie, tu sais.
C'est Batman. Vous avez dit politique. Oui, on peut dire homme politique, même si au départ, c'est pas un homme politique, mais il s'est lancé depuis dans la politique.
Il n'y a pas longtemps.
Bernard José Bové. José Bové.
José Bové. Bonne réponse de Fabrice Bové.
C'est un homme politique.
Oui, c'est un homme politique. Au départ, c'est un syndicaliste.
C'est un homme politique.
Avant qu'il y ait un homme politique, au départ, t'en fais pas.
C'est un paysan au départ. Voilà.
Oui, bah,
c'est paysan.
Au
départ, c'est surtout un écologiste respectueux de la nature.
C'est vrai. Voilà.
C'est pas très... parler qui roule pas trop vite pour pas polluer plus, trop.
Mais c'est vrai. Non, mais attends.
Qu'est-ce qu'il sent la chèvre en plus? Attends, Olivier. Gonfle, lui, à la putain.
Mais si, tu sais pas, hein. Si ça se trouve, il était en vélo. Hein.
135 km/h, c'est sympathique, effectivement.
Sur une départementale.
Ouais, de la part de José Bové, qu'on imagine plutôt en tracteur.
En vélo.
Avec sa pipe.
À pied, moi je le voyais à pied.
Moi je le voyais à pied avec une brouette et un masque en train d'arracher les OGM.
Ouais. Il paraît qu'en plus
là, il a 135 à l'heure avec sa Ferrari qu'il a échangé avec le convoyeur de fond.
C'est une Ferrari, c'est quoi?
Et alors pourquoi il allait vite comme ça?
En plus, il paraît que c'est encore plus grave. Il a 4 points parce qu'il avait une main occupée à manger un McDo.
Vous faites-vous des rallyes, des choses comme ça de temps en temps? Parce que les artistes font ça.
Fait des rallyes.
Non, ça va pas,
bien sûr.
Bah, mais non, des gens comme Jean-Marie Bigard, Didier Gustin et
d'autres. On parle d'artistes.
Moi, je tiens à la vie, moi.
Mais
Henri Lecomte.
Non, non.
Non, faites
moi,
pas
j'ai
ça.
Fait un stage pour récupérer des points il y a 15 jours, c'est tout. Ce que je fais comme activité automobile. Ça, c'est une grande expérience humaine.
C'est vrai, c'est génial.
Avec un éducateur et un psychologue. Tu vois, le psychologue, le mec.
Racontez.
Alors, le psychologue qui avait un complément capillaire, qui devait être un ancien alcoolique.
Tu vois, jaloux.
Non, comme ça, et tu sens que le mec, quand même. Il est psychologue, il a fait plein d'études ou quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va de temps en temps, il décroche un cacheton pour aller voir, faire récupérer des points à des gens du permis de conduire. Ouais. T'imagines la carrière. Plus, monsieur prévention routière. Alors lui, qui est une espèce de militaire, tu vois, comme ça. Et qui te dit des horreurs constamment. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu vas mourir, tu vois. Mais c'est épouvantable. Et un échantillon représentatif
de gens contrits.
Ah, ça, c'est très marrant.
Oui.
Parce que tu vois, il y a des gens que j'aurais jamais rencontrés de ma vie. Et ils ont tous le même problème. Il a un point, il faut qu'ils récupèrent. Et c'est comme à l'école, c'est-à-dire que ça commence à déconner au bout de quelques heures. Le mec se vexe. Tu vois? Et qu'est-ce que vous pensez là? S'il y a la voiture qui est là, et qu'est-ce qu'on ferait, hein? Dit le mec. Tout le monde rigole, tu vois, ouais. Il est vachement vexé. Parce qu'ils ont une espèce de méthode pédagogique avec des graphiques, des trucs. En fait, tu payes, on te donne 4 points, c'est tout. Ça s'arrête là.
Et vous l'avez récupéré donc.
Ah, tout de suite. 265 euros.
Il a un téléphone d'ailleurs. Non, mais c'est honteux. Il a appelé tout de suite de sa voiture pour annoncer la bonne nouvelle.
Mais t'es con, tu vas dans le 18ème, il te file des faux permis pour moins
Christine,
cher.
Christine, bravo.
Ils vont essayer de
me mettre en prison avec elle.
Non, ils te vendent, ils te disent je vous vends des points et tout, et ça coûte rien. Mais
déjà, t'es dans le 18ème, Christine.
Oui, ben pour ça.
Bonne fête à tous à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, place aux blagues dans le best-of d'On va se gêner. Avec dans cet extrait, Laurent Ruquier qui est entouré d'Elsa Fayère, Gérard Miller, Gaspard Proust et Fabrice Eboué.
Ça tombe bien que vous soyez là, mon cher Fabrice, parce que alors là, j'ai un mail du sélectionneur de l'équipe de France de football, Raymond Domenech, qui me dit que vous avez commis une grave erreur hier quand vous avez parlé des psychopathes dont vous avez relevé le fait que souvent, ils avaient un double prénom, Guy Georges, Émile Louis, et vous avez dit Thierry Henry au lieu de Patrick Henry. Thierry Henry, c'est le footballeur, vous voyez, c'est pas un psychopathe.
Effectivement, c'est une erreur de ma part. Pas encore.
C'est vrai, il peut finir par tuer Raymond Domenech, parce que on sent bien qu'il y a quand même un peu d'eau dans le gaz. Mais enfin, voilà, il était normal de rectifier.
Par contre, Raymond Domenech a oublié de citer Estelle Denis.
Ça, c'est vrai, oui. Un autre mail. J'aime beaucoup l'humour de Fabrice Eboué. J'ai d'ailleurs une petite question à lui soumettre. Selon lui, quelle est la différence entre un lèche-cul et un suce-boule? L'haleine. C'est pour vous, hein.
Bonjour, la qualité.
Monsieur est connaisseur. Hein.
Je me demande parfois ce que ça te fait, Fabrice, que les gens, qui sont quand même très nombreux, nous écoutent.
J'ai failli dire qu'il y a la différence entre Michalak et Miller, et puis... Et puis finalement, ça marchait moins bien, vous voyez, s'il avait mis des noms à la place.
Ouais, on aurait cherché exactement ce que vous vouliez dire.
Pardon, mais c'est vraiment fini avec Michalak?
Ah, c'est fini. Joujou, hier, il faut que je vous raconte alors, tout bas pour pas bien que sûr. Ça se sache.
Ça doit être très sale comme histoire.
C'est bien dégueu, là.
Là. Les boules et le cul, j'en sais rien à côté, je crois.
Hier, j'ai reçu un texto de Michalak, je vous jure que c'est vrai.
Ouais. Oui.
Là, parce qu'après, il va dire oui, que c'est moi ou ceci. Et un texto de Michalak, hier après-midi, je peux même vous le montrer. Est-ce que je te manque pas un peu quand même?
Oh, la
la
petite cochonne.
Mais Laurent, vous
je vous jure que c'est vrai. Est-ce que je te manque pas un peu quand même?
Et lui, son haleine, elle est comment?
Je suis content de réentendre Fabrice Eboué dans l'émission depuis lundi, mais il nous arnaque un peu. Il a en effet déjà raconté l'anecdote sur les sex shops à la fin de la saison dernière, celle qu'il a re-racontée hier.
Claude Sarraute raconte 10 fois les mêmes histoires depuis 15 ans, je veux dire, personne ne lui dit rien.
Vous avez le temps.
Alors hein. J'en ai une nouvelle.
Ah, allez-y.
C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises. Il nage pendant des heures, pendant des jours, il nage épuisé, il crève de faim. Vraiment, il a très faim. Et enfin, il arrive sur les côtes françaises comme ça. Et il crève de faim, vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey, comme ça, et le moniteur lui dit « Toi, t'as mangé ?» Il fait « Non, il dit « C'est bon, tu peux aller nager.
» Ah oui. Quel casting de rêve aujourd'hui, me dit Mathurin, c'est un auditeur qui nous envoie régulièrement des mails. Il dit quel plaisir de retrouver une nouvelle fois Olivier de Kersauzon, mais comme il ne connaît pas encore tout à fait tout le monde, voici quelques informations afin qu'il puisse s'y retrouver plus facilement au sein de toute cette équipe. Le plus timide, c'est Gaspard Proust.
Oh putain, d'après, encore, c'est bon.
Ah oui, oui. D'après lui-même, ce serait un humoriste, mais un humoriste qui ne veut pas être comique.
Mais oui, ouais. Non, mais je vais justifier plus tard. Mais après, je vais devenir extrêmement sérieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le seul destin possible des humoristes face à l'hilarité ambiante, je vais faire du Finkielkraut, c'est d'être sérieux. Je trouve que c'est extrêmement profond ce que je dis et ça sera compris que dans 3 ans. C'est l'humour décalé, je pense.
À côté de lui, certainement, vous trouverez Titoff ou une chaise vide, car normalement, il commence à 16h10 tous les jours. C'est dans son contrat et s'il est déjà présent, c'est une erreur de sa part. Ça lui sera retiré sur son salaire.
Oui, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai pris un taxi aujourd'hui.
C'est le cas aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'il est drôle, ce Titoff.
Et si vous avez déjà envie d'écrabouiller le type avec les petites lunettes à la con, à la voix pointue et au pull tricoté dans une maison de retraite, c'est normal, c'est Gérard Miller.
On voit qu'on est à la radio, je ne porte plus de lunettes depuis très longtemps.
Ah oui,
et donc le seul qui porte des lunettes à cette table, c'est vous, Laurent.
C'est vrai, alors j'ai cru que c'était pour moi à un moment donné. Mais dès qu'il a parlé du pull, j'ai bien compris que c'était vous. Celui qui en a marre de signer des autographes de Dieudonné, vous le connaissez déjà, c'est Boubounet. Et enfin, la belle nana qui a ses 2 spies gonflées posées sur la table, c'est Elsa Fayer.
C'est pas vrai, ils sont pas posés sur la table.
Ah non, puis alors, en plus, dis donc, je sais pas ce qui se passe.
Ils ont perdu.
Ouais. Ben, ils ont
j'ai
perdu.
Beaucoup maigri.
Mais qu'est-ce qui se passe
pas. Tu t'es fait arnaquer, ouais.
Ah ouais, non, mais ça moi, fond. Ça fond ces bêtises.
Quand tu fais un régime, tu perds du silicone en même temps. Comment ça se passe?
Remboursé.
Mais moi, je suis désolé, moi. Mais je vais plus pouvoir vous prendre.
Mais c'est ça, vous me preniez que pour ça, mais je suis très emmerdée.
Avant, Caroline Diamant, on la prenait parce qu'elle était grosse, elle est devenue belle. Ouais. Stevie, on le prenait parce qu'il était con, il se cultive.
Et Michalak, il le prend tout court, tu vois.
Vous, on vous prenait pour vos nibards, il n'y en a plus. Ça, c'est... Ouais. Non, bah, ça devient
faut que je m'achète un
Gérard, on le prenait parce qu'il était de gauche, maintenant il est capitaliste. Non, tout fout le camp. Hein. Ouais.
Mais j'ai toujours le même cerveau.
Ah oui.
Ça vous rassure,
ah,
non?
Ça va, alors.
Ouais, alors voilà.
Ouais, mais une conne à petit sein, ça nous intéresse pas, on peut dire.
Bienvenue si vous arrivez jusqu'à 18h sur Europe 1. On ne fait pas que rire avec Laurent Ruquier. Grâce aux questions qu'il pose à son équipe, eh bien on se cultive aussi. La preuve avec cette nouvelle question du best-of d'On va se gêner.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Going Rogue est en vente depuis le 17 novembre dernier et c'est déjà un best-seller. Il a été imprimé à 1,5 million d'exemplaires. Mais pourquoi Going Rogue est-il un best-seller?
Comment s'écrit Rogue?
Pourquoi s'arrache-t-on ce livre? Ça s'écrit R-O-G-U-E. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, Going Rogue.
Going Rogue.
Going Rogue.
C'est l'auteur qui est célèbre?
L'auteur est célèbre, c'est vrai, et fait
très
un...
Très célèbre en Amérique.
Oh, et chez nous aussi, mais en Amérique avant tout, oui, bien sûr.
Stephen King?
Non, c'est pas Stephen King.
Bernard-Henri Lévy?
J'aurais dit d'abord célèbre chez nous et après en Amérique.
Ah oui, c'est dans ce sens-là. Parce que...
Là, c'est le contraire. Il faut dire que l'auteur de ce livre fait une tournée promotionnelle importante. 18 étapes annoncées à travers les États-Unis.
C'est pas le frère d'Obama?
Non, ce n'est pas le demi-frère.
Oui, le demi-frère
Barack
d'Obama.
Obama,
PPDA
qui est en Chine. PPDA qui ferait une tournée aux États-Unis pour vendre un livre.
Bien sûr, attendez.
C'est pas la fameuse présentatrice de télévision?
Oprah Winfrey?
Oui,
Oprah Winfrey. Pas non. Du tout.
Mais c'est un auteur habituellement ou c'est la première fois qu'il écrit un livre?
Alors ce n'est pas un auteur habituellement, je pense que c'est la première fois.
C'est un acteur?
Non.
Un basketteur?
Non.
Un chanteur?
Non.
C'est une biographie, le livre?
Autobiographique, oui.
C'est un ancien homme politique?
Non, pas ancien homme politique.
Je l'ai su cette nuit.
C'est
j'ai
bien
oublié
ça.
Déjà.
Ouais. Je l'ai su
à 3h du matin.
Ouais. Pourquoi cette nuit?
Parce que cette nuit, je lisais Le Monde et il y avait un article là-dessus.
C'est pas politique.
Qui vous a dit que c'était pas politique ici?
Non, non, c'était une affirmation question. C'est pas politique.
C'est politique ou c'est pas politique?
C'est politique. Qu'est-ce que je dois répondre alors?
J'en sais rien, c'est vous qui avez la réponse.
Ben moi, j'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit est-ce que
c'est
un homme politique?
En réponse,
non, vous m'avez demandé est-ce que c'est un ancien homme politique? Je vous ai répondu non.
C'est un homme politique actuel.
C'est un nouvel homme politique.
Une femme, Sarah Palin.
Ah, c'est Sarah Palin. Bonne réponse.
J'ai trouvé, voilà.
De Titoff.
Avec son beau-fils qui pose à poil.
Ah bon? Racontez.
Oui, bah le petit ami de sa fille qu'il avait mise enceinte alors qu'ils ne sont pas mariés, qu'elle avait 16 ans, etc. Ce qui avait créé une polémique à l'époque. Et bah, on le retrouve à poil maintenant sur Internet.
Eh bah, elle est bien la famille.
Pourquoi
elle est
belle
la
famille
catholique. Bah, il chasse un ours à poil.
C'est pas en lisant le monde, c'est en écoutant l'effet papillon là, de l'émission sur Canal+.
C'est important de préciser.
Où il faisait justement tout un truc sur Sarah Palin. Il disait son livre. Et oui, voilà, si j'avais de la mémoire. Je serais peut-être pas là, tu me diras.
Mesdames et messieurs, je vous annonce que Pierre Bénichou vient de craquer en direct.
Ça y est.
Qu'est-ce qui se passe, mon Pierrot ? Il y a une petite déprime.
Non, pas il n'est pas propriétaire.
Un steak de cheval pour le 2.
Et il n'est pas propriétaire, il n'aime pas aller chez les amis.
C'est les fonctions essentielles qui se font la malle, quoi.
Mais non, Pierre.
Mais si.
Mais non.
Mais si.
Regarde, les autres non plus n'ont pas trouvé Sarah Palin, c'est Titoff.
Ouais, mais les autres, tu vois un peu le niveau.
On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1, en semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h.
Pourquoi a-t-on vu Jésus devant le mur des Lamentations ? Pour quelle raison a-t-on vu Jésus devant le mur des Lamentations ?
C'est un type qui est juif et qui s'appelait Jesus et qui est allé là. Alors donc non, Jésus
en espagnol, il s'appelait Jesus.
Est-ce que c'est le mec de Madonna ?
Bonne réponse de Caroline Diamant.
Ouais, j'ai un petit peu honte d'avoir trouvé.
C'est vrai qu'elle est en concert à Jérusalem ce soir.
Exactement. À Tel Aviv, je crois, elle est en concert. Madonna,
ouais,
elle est en tout cas en...
Mais le mur de Lamentations, ils l'ont pas mis à Tel Aviv. Hein. Non, mais... il reste sur Jérusalem. Hein.
Certes, mais on veut dire par là qu'elle vient d'atterrir en Israël et que mardi et mercredi, c'est-à-dire ce soir et demain, elle est en concert, a priori à Tel Aviv, devant 100 000 fans, le parc Ayarkon de Tel Aviv. Et effectivement, hier, elle en a profité pour visiter. Je ne sais pas, peut-être qu'elle connaissait déjà quand même Jérusalem, mais en tout cas pour se rendre devant le mur des Lamentations en compagnie de son petit ami, comment vous dites, Jésus, Jésus quoi.
Qu'est-ce qu'elle a mis comme petit mot dans le mur des Lamentations? Elle a demandé quoi, à votre
d'après
avis
toi?
Je sais pas.
Disque d'or.
Que la tribune s'écroule pas comme à Marseille, peut-être.
À Luftingris.
Madonna, en tout cas, s'est recueillie à Jérusalem devant le mur des Lamentations. Elle a posé une rustine, j'ai vu la photo. Non, mais quand même, c'est un événement. Comprenez Madonna qui arrive à Jérusalem avec son nouveau compagnon.
Ah oui, attendez. Ouais. Madonna Jésus. En Israël, oui, c'est un événement. Il doit être content de l'avoir.
Vous connaissez le parc de Tel Aviv? Là, vous êtes déjà allé, vous, à Tel Aviv, Caroline?
T'as déjà chanté
Tel Aviv? Personnellement, je suis française, c'est un pays.
Française, c'est tout.
Israël est un pays étranger, effectivement. Oui. Je serai accueilli certainement gentiment en cas de problème de guerre, donc je suis ravi qu'ils existent. Mais j'ai dû y aller deux fois.
Ah bah
même
oui,
si
quand
j'ai
même
beaucoup de famille là-bas.
Alors voilà,
que j'embrasse.
Beaucoup de famille là-bas en plus.
Oui.
Ils sont partout, ceux-là. C'est vrai qu'il y a des juifs même en Israël.
Non, faut écouter Pierre. Ce que je voulais savoir juste, Caroline.
Moi, j'habite Deauville, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais juste.
Non, je ne connais pas le parc Ayarkon. Et il n'a pas été appelé ainsi à cause de moi.
Un homme s'est noyé dans le lac de Bangkok, en Thaïlande. Pourquoi la presse en parle-t-elle énormément ces jours-ci?
Parce qu'il était connu?
Non.
Homme s'est noyé d'une condition très particulière.
Oui. Un homme s'est noyé dans le lac.
Il s'est noyé à côté du lac.
Non, non.
Dans un seau, un truc.
Il s'est noyé dans 20 cm d'eau.
Non, non. Il s'est noyé en tentant de traverser le lac de Bangkok.
Il essayait de sauver quelqu'un?
Non.
De s'échapper, de s'évader.
Il prenait pour Jésus, il marchait pieds nus.
Non.
Il marchait sur l'eau.
De s'évader?
Non.
Il avait une invention, il testait une invention?
Non.
C'était un fou, le type.
Pas du tout.
Il amenait ses propres enfants à Bangkok.
C'est quelqu'un de très radin.
Ça, c'est vraiment un vicieux.
Non, Pierre, on n'est pas le droit.
Oui, comment gars, j'ai pas le droit?
C'est la rentrée des
classes
dans 3 jours.
Alors, vous rigolez sur les juifs et moi, je peux pas rigoler. Et moi, je peux pas rigoler sur les bangkokais.
Est-ce que vous m'avez vu rigoler sur les juifs? Écoutez,
d'accord, oui, je vous vois venir. Hein. Hein 50. Moi, je vous fais prendre.
Ce garçon qui s'appelle Saad Khan avait 32 ans. Il s'est noyé dans le lac de Bangkok et on en parle énormément. Pour quelle raison?
Ok. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un s'est noyé dans le lac de Bangkok?
J'en sais rien, non, sûrement pas. Il y a sûrement d'autres gens.
Il traversait avec un engin, avec des fusées, avec des hélices.
Non, il nageait avec un sac de 7 kilos sur le dos.
Ah, en fumant.
Moi aussi, je nage avec un sac de 7 kilos devant.
Un sac de plein de couches Pampers qu'ils ont gonflé.
Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le sac. Ce que je sais, c'est que le sac pesait 7 kilos.
Ok, est-ce qu'il a fait une connerie qui fait qu'il est mort?
Non, non.
Il était militaire avec un sac de 7
non,
kilos.
Non,
est-ce qu'il tentait une expérience?
Il transportait de la drogue?
Non, non plus.
D'une rive à l'autre.
Du ciment à prise rapide.
Non.
Il n'aurait pas croisé un animal que d'habitude on ne trouve pas dans le lac de Bangkok?
Par exemple.
Le monstre du Loch Ness?
Un requin. Un requin dans le lac de Bangkok.
Bah, allez savoir.
Le week-end.
Non, mais enfin, franchement, écoutez.
Mais attendez, je cherche, moi, monsieur. Non, je ne reste pas mort devant mon micro.
Il a un sac à dos a une importance dans sa mort?
C'est une contrainte qui a fait qu'effectivement ça l'a pas aidé pour nager, vous voyez.
Ok, il s'est pris la courroie du sac à dos autour du cou.
Je ne cherche pas la raison pour laquelle.
Bien quand elle dit ok qu'elle trouve pas. Ouais.
Quand je dis ok, vous vous sentez obligé d'écouter la réponse. Pendant ce temps-là, je prends un peu d'avance.
Je vous demande pas comment il s'est noyé.
Vous demandez quoi,
pourquoi ça a eu un tel rayon.
Voilà.
Pourquoi il a traversé ce lac d'abord?
Pourquoi on en parle? Pourquoi il traversait ce lac de Bangkok?
Mais il n'est pas connu, vous avez
avec
dit.
Un sac de 7 kilos. Bah, il commençait à l'être un peu quand même, Saad Khan, à 32 ans. Mais il n'était pas super connu aujourd'hui. Il l'est, évidemment. Mais si on en parle énormément,
c'était pour un Pékin Express ou un truc comme ça. Il a dû traverser le lac et il s'est noyé.
C'est-à-dire?
Bah, une émission de Téloche où il a dû...
Une émission de...
Télé-réalité!
Oui, bonne réponse de Jérémy Michalak. Okay.
Mais il s'est noyé devant les caméras, le mec?
Ça a été filmé, il s'est noyé devant les caméras. C'était pour une émission de télé-réalité qui s'appelle Expédition Robinson. Une émission de télévision pakistanaise, même si ça se passait en Thaïlande.
Donc sans caméra, ouais.
Non, il y a des caméras au Pakistan quand même.
Bien sûr, il y en a une.
Mais... Au Pakistan.
Pierre, vous pouvez revenir avec...
Laissez-moi, vous pouvez vivre 5 minutes sans moi. Hein. Vous engagez des mecs à prix d'or pour me supplanter. C'est pas pour m'emmerder quand j'enlève ma veste, quand même.
Ah, ça y est. On l'attendait. Hein.
Là, je reviens à mon jeu de télé-réalité. C'est assez triste de se dire que quand même cet homme, père de 4 enfants, a appelé à l'aide alors qu'il se noyait avec ce sac de 7 kilos sur le dos. Ça faisait partie du concours. Il était filmé pendant ce temps-là et les autres candidats n'ont pas eu le temps de le sauver, ou ils n'ont pas voulu d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Les organisateurs de l'émission ont attendu que son corps soit rapatrié avant d'annoncer la nouvelle. Une enquête est en cours, mais la polémique enfle parce que les producteurs sont accusés d'avoir continué à filmer au lieu de lui porter secours.
Bien sûr, on le voit très bien, le producteur et le réalisateur qui disent « Vas-y coco, vas-y, essouffle-toi un peu plus, souffle plus, vas-y, il a l'air plus désespéré jusqu'à ce que le mec coule. » C'est incroyable.
Et là, encore après,
ce qu'on fait de nous à la télé-réalité.
Ça peut très bien arriver dans une émission comme Koh-Lanta, non? Avec les épreuves...
À Interville aussi.
Bah voilà.
Oui.
À Interville.
Pourquoi pas? Bah, ça peut arriver.
Et dans Motus. Imagine, tu bloques la main quand tu vas chercher la boule. Imagine le drame.
Il y a eu 3 morts au chiffre et aux lettres.
Ouais, ça, c'est un problème d'âge, ça.
Non, des suicides.
Merde, j'ai pas eu de compte, c'est bon. Ouais.
Et quand le mec il est mort, qu'est-ce qu'il vient dire de perdre? Cadeau, Jean-Pierre.
On va se gêner sur Europe 1.
Ladies and gentlemen, now. Question of question, the question, the best question of the world. Bref, une nouvelle question, quoi.
La France s'est mise au fucubucuros.
Mais...
au fucubucuros. Mais savez-vous ce que sont les fucubucuros?
C'est le nouveau sudoku?
Non, pas du
c'est
tout.
C'est champignon?
Non.
C'est un truc japonais?
Alors, bien sûr, au départ, ça vient du Japon, les fucubucuros. Mais
ça se mange.
Nous avons maintenant une adaptation française des fucubucuros.
C'est des cacahuètes au tofu.
Expliquez-moi, vous en avez déjà mangé des cacahuètes au
non,
tofu?
Non, mais je me disais que ça devait être marrant de...
Non, ce non. ne sont pas des cacahuètes au tofu, Gaspard.
Mais on a l'adaptation française de ce truc-là, non?
Ouais, ouais. Chez nous, on a trouvé un nom anglais, en fait, pour transformer les fucubucuros en quelque chose de français qui se vend comme des petits pains. Je vais vous dire où, à la Défense, d'ailleurs. C'est à la Défense que l'initiative a été prise. Et d'ailleurs, on aura au téléphone dans un instant Madame Agathe Lang, qui est la directrice du centre commercial des Quatre Temps. Et Madame Lang nous expliquera comment elle a eu l'idée de lancer ces fucubucuros.
C'est des baskets, non?
Non, pas du tout.
C'est pour les gens qui bossent dans les entreprises de la Défense. Donc.
Aucun rapport.
C'est pas lié au monde du travail.
Non, je vous dis qu'on en vend des fucubucuros.
Et ça se mange?
C'est de la décoration.
On peut trouver peut-être des choses qui se mangent dans les fucubucuros.
Ah, c'est de la décoration.
décoration ?
Non.
On peut trouver des
Nous, on connaît ça sous un autre nom. Quand on était enfant, on aimait ça, on appelait ça autrement.
Des pochettes surprises ?
Des pochettes surprises ! Excellente réponse de Michel Vernier. Et on appelle ça des Lucky Bags, puisqu'il y a une Lucky Shop à la Défense, ouais, aux quatre temps. Bonjour, Madame Lang.
Bonjour, Monsieur Ruquier.
Alors, c'est vrai que vous êtes les premiers à avoir lancé cette initiative de proposer pour Noël des pochettes surprises, en quelque sorte, des Lucky Bags. Et il paraît qu'il y a affluence au stand Lucky Shop, où alors on trouve de tout, finalement, dans ces pochettes. On ne sait pas ce qu'on achète quand on les achète, on est bien d'accord.
Tout à fait. Donc, on a lancé les Lucky Bags, effectivement, donc des pochettes surprises.
Et elles sont toujours en forme de cône comme ça ?
Non, pas du tout.
Ah, c'est dommage, parce que moi quand j'étais petit, j'adore.
Cadeaux carrés.
Excusez son accent, hein. Il voulait dire des cônes et pas des cônes.
Ah oui, on lui offrait des cônes quand il était petit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos pochettes surprises à vous, dans vos sacs chanceux ou vos lucky bags, si vous préférez, pour que les gens se précipitent ? Combien ça coûte d'abord ? Tiens, voilà.
Alors, donc il y a des petits à 30 euros, il y a des grands à 50 euros.
Ouais.
Et donc, plusieurs thématiques, vous avez déco, maison, prêt-à-porter, high-tech, culture, fun. Dedans, vous retrouvez des produits qui ont une valeur bien supérieure au prix d'achat du sac. Et donc, plein de petites choses dedans.
Alors, c'est ça que je ne comprends pas et que je voudrais évidemment que vous m'expliquiez. C'est-à-dire qu'en fonction des sacs sur lesquels on va tomber, évidemment, on n'a pas la même chose. Chaque client repart avec un sac différent.
Tout à fait.
Et il y a des sacs qui sont au-dessus de la valeur. C'est un peu comme un jeu de hasard, en quelque sorte.
Tout à fait. Et la somme totale de tous les produits qui sont dedans vaut pratiquement le double ou le triple de la valeur du sac. Ah ouais.
Mais comment vous pouvez faire pour que le contenu vaille deux fois plus que la valeur du sac ?
Donc en réalité, toutes les enseignes du centre qui ont participé au remplissage de ces Fukubukuros ont été parfois généreux puisqu'ils ont offert tout simplement des produits à mettre dans les sacs pour avoir une visibilité de leurs enseignes. Et dans d'autres cas, ils ont vendu des produits à une valeur bien inférieure à celle qui est vendue dans leur propre
Et alors, vous pensez que les clients affluent pour quelle raison ? Parce qu'ils veulent faire une surprise, ne savent pas quoi acheter comme cadeau. Ils se disent là, bah, au moins, voilà, c'est un cadeau surprise. C'est ça l'idée ?
Oui, tout à fait. Et puis en plus, je pense que c'est quelque chose d'assez innovant. Donc, il y a le principe qui
de la nouveauté.
S'intéresse. Voilà, tout à fait.
Et en déco, il y a quoi ? Alors, des bougies
Bien sûr. Alors, il y a des sacs plus féminins et d'autres plus masculins. Il y en a dans lesquels vous pouvez effectivement avoir des bougies.
Et vous faites toujours auto-école ou pas?
Ouais. Il faudrait qu'il
Parce
fasse
que
avec
moi, vous disiez, t'as trouvé ton permis dans une pochette surprise. Mais c'est ça, non? Vous riez ou pas?
Oui, oui. Bien sûr.
Bonne fin d'après-midi à tous, c'est toute la semaine sur Europe 1 de 15h30 à 18h, c'est Laurent Ruquier et sa bande qui vous amusent et vous divertissent. Et pour les vacances, ils ont sélectionné pour vous le meilleur de leur délire, le meilleur dont va se gêner.
Qui a dit alors qu'il était exilé à Londres, à la BBC, la partie n'est pas gagnée, le combat continue ?
De Gaulle ?
Non.
C'est très vieux.
Un politique ?
Non, pas un politique.
Et ça date de la guerre ?
Alors, c'était effectivement à un moment où cette personne était menacée de mort par les nazis et exilée à Londres.
Pierre Dac ?
Non.
Adolf Hitler ?
Non, non.
Ce mec qui n'a pas vraiment compris le sens de l'histoire. Ouais.
Quelqu'un exilé à Londres, poursuivi par les nazis et qui dit à la BBC...
Le petit prince de Saint-Exupéry.
Non, la partie n'est pas gagnée, le combat continue.
Pourquoi on rapporte maintenant cette phrase ? Parce qu'il vient de disparaître ?
Vous le saurez quand vous aurez évidemment la réponse.
Il vient de disparaître ?
Non, non, pas du tout. Non, non.
Il est mort depuis un certain temps déjà.
Oh là !
Moi, Est-ce qu'il est français ?
Français, non, 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 pas du tout.
Exilé à Londres, mais c'est un être humain, on est bien d'accord.
Ah, c'est un être humain. Il y a peu de gens, à part des êtres humains, qui peuvent dire à la BBC non, la partie n'est pas gagnée,
le combat
continue.
Ça pourrait être un personnage, pas du tout, ça pourrait être un personnage joué par quelqu'un.
Ouais, c'est ça, t'as raison.
Ça peut être un personnage joué par quelqu'un, je vois absolument pas.
Ouais. C'est de mauvaise foi, Gérard.
C'est un Européen.
Européen.
Pays de l'Est.
Freud.
Freud, bonne réponse de Gérard Miller.
On vous a dit qu'il était mort avant la guerre tout à l'heure.
Je vous ai bien piégé.
Il est mort en 39,
mais il était déjà...
Ah ben, il a quitté l'Allemagne nazie, il était persécuté, ses livres étaient brûlés par les nazis, il a quitté, en passant par la France grâce à une princesse qui s'appelle Marie Bonaparte, il a quitté l'Allemagne nazie, il est allé se réfugier à Londres. Et je signale d'ailleurs qu'à Londres, il y a dernière maison de Freud qui se visite, qui est un musée qui est formidable.
Il luttait contre le cancer, il avait subi d'innombrables opérations à la mâchoire, et tout ça est dans un livre qui s'appelle « Biographie psychanalytique, si c'était Freud » que vient de publier un psychanalyste, certainement un de vos confrères, qui s'appelle Gérard. Ils s'appellent tous Gérard, les psychanalystes.
Oui, à tous, c'est une obligation. On ne peut faire de ce métier qu'en s'appelant Gérard ou Sigmund. Ah, c'est une obligation, bien sûr.
Il s'appelle Gérard Hubert.
Mais bien sûr,
vous, vous le connaissez?
Ah, bah, tous les Gérards de psychanalyse, on se rencontre régulièrement.
Gérard des réunions Hubert, entre Gérard, Gérard.
Ah ben, entre psychanalyste, donc Gérard. Entre Gérard, oui, oui. Ouais.
T'as jamais discuté avec Gérard Rolls? Tu ressors de ça.
Alors là, il y a tout un bouquin que vous allez lire, forcément, hein, Gérard.
Mais, bah, des biographies de Freud, il y en a un paquet. Oui.
C'est aux éditions Le Bord de l'eau, et il nous raconte donc voilà, qu'à la BBC, Freud avait eu cette phrase « La partie n'est pas gagnée, le combat continue ». Là, je suis bien heureux de vous avoir piégé sur cette affaire-là.
C'était amusant, oui.
Gaspard, vous n'avez pas regardé, vous, Apocalypse?
Ah si, si, et j'ai même acheté le DVD, alors que j'achète jamais de DVD, et là j'ai acheté, parce que moi, enfin, c'est colorisé, c'est vraiment un film. Et on voit la guerre, on est dedans, en même temps on se dit que ah, c'est pas à nous que c'est arrivé, et grâce à eux on a eu les 30 glorieuses, on peut consommer comme des imbéciles et on est très heureux que c'est eux qui aient subi ça, et pas nous. Et ouais, non, c'est vraiment, c'est super. En fait, j'ai pas regardé la première partie, donc j'ai acheté hier, je vais regarder ça ce soir. Mais c'est vrai que ça se finit quand même assez mal du côté du nazisme. C'est que, et d'ailleurs, dans ce qu'a dit Sigmund, je trouve une certaine aigreur par rapport à ce régime qui, bon.
Je ne propose qu'on ne coupe pas ce qu'il vient de dire. Et ta carrière est foutue. Tu vas voir.
C'est un peu ce que dit le personnage du jardin. Mais non, dans OSS. OSS. C'est un petit peu ce que dit OSS. Les juifs, les nazis, les torts sont partagés. Hein, un jour.
Non, c'est pas vrai, Gérard.
Mais c'est ce qu'il raconte. Quelle du jardin. Horreur. Mais non, mais c'est absolument cet humour-là qui n'est justement absolument pas mal compris dans un film comme celui du jardin.
Non, mais des proches, c'est des blagues de des proches, ça, tout simplement.
Oui, du proche, tu aurais toujours ça plus ambigu quand tu faisais des blagues. Moi, j'ai jamais été fanatique de l'humour sur les juifs.
Pourquoi?
De des proches. Parce que je sais pas. Moi, j'ai jamais trouvé ça absolument clean, l'humour de des proches là-dessus. Mais bon, je me trompe peut-être.
Il y a un recueil de blagues qui s'appelle Mein Kampf, par contre. C'est juste...
Quelle horreur!
Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et tout de suite direction Copenhague avec Laurent Ruquier et sa bande. Et une question sur le sommet qui a marqué la fin de l'année dernière dans le best-of d'On va se gêner.
Je vais vous parler maintenant de quelqu'un qui le 7 décembre prochain sera au sommet de Copenhague. Parmi les experts du climat, il représentera la France pour la lutte contre les changements climatiques au Conseil de l'Europe. De qui s'agit-il?
Nathalie Rioué? Nathalie Rioué?
Nathalie Rioué.
Sébastien Follin.
Non, mais
Romeshko.
Pardon.
Sophie Davant.
Laurent Romeshko. Sophie Davant.
C'est pas le nouveau copain de Yann Arthus-Bertrand, non?
Non. Il a un nouveau copain.
Non, mais je veux dire, j'ai vu en photo. Je sais plus qui, un acteur.
C'est pas Nicolas Hulot?
Qui ça?
Nicolas Hulot.
Nicolas Hulot, non. Qui sera au sommet
de connu.
Copenhague parmi les experts du climat?
Jean-Louis Borloo.
Non, il y siégera et il est connu. Et il sera le représentant français pour la lutte contre les changements climatiques au Conseil de l'Europe.
Un scientifique?
Non, justement.
Un acteur.
Si je vous en parle, c'est parce que c'est un peu surprenant. Un acteur,
c'est
oui.
C'est ça, j'ai vu une photo avec un acteur, j'ai oublié que c'était.
Un acteur
de cinéma?
De cinéma, de théâtre.
Alain Delon,
non, il s'en fout de l'écologie.
Un jeune,
oh, il est un peu plus âgé que moi.
Auteuil.
Auteuil, non.
Mais on est brûle là, on est dans les parages.
Oui, Claude, vous êtes dans les parages, ça, je vous vois très bien. Là. Vous êtes pas loin, vous êtes même en face
Christian,
de moi.
Christian Clavier,
non, mais voyez, on est dans
Cyril Hermite.
Non.
Gérard Jugnot.
Bon, est-ce qu'il est connu
pour être écolo
au moins? Ah, bah c'est Arditi.
Pierre Arditi, pas du tout.
Il est français.
Tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Tu regardes que la vieille là. La pauvre chérie, mais tu sais ce qu'elle a, la pauvre enfant. Elle est jalouse. Elle est même pas jalouse. Parce que jalouse, c'est un rapport à trois.
Oui.
C'est-à-dire que si
je dormais avec toi, Laurent, ouais. et qu'elle aussi, elle pourrait être jalouse. Mais oui. non, elle est envieuse. Mot qui n'est plus jamais employé.
Parce que
employé.
D'habitude, c'est moi la vieille quand t'es pas là. Et
ben
bah
voilà,
qui
t'es ce que je dis, t'es envieuse.
Alors s'il te plaît, est-ce qu'il est connu?
Alors, Danny Boone, Cadmérade.
Bon, bah alors,
est-ce qu'il est connu? Mais oui, il est connu, évidemment.
Il est vraiment vexé.
Mais je peux pas vous répondre vraiment parce qu'il est passé. Connu, c'est pas le mot, évidemment.
Francis Huster.
Quoi,
non.
Connu, c'est pas le mot.
Eh ben oui, connu, c'est pas le mot. C'est une vraie réponse que je fais à votre question en vous regardant.
C'est un mec des Inconnus.
Bravo. Hein,
Didier Bourdon.
Campan.
Ben Légitimus. Légitimus. Pascal Légitimus. Bonne réponse de Fabrice Éboué.
C'était facile, hein,
sur
bébé.
Sur le fil, ouais.
Ah bah. Pascal Légitimus, on ignorait qu'il s'intéressait au climat, on ignorait qu'il s'intéressait à l'environnement à ce point, et en tout cas, il sera au sommet de Copenhague parmi les experts représentants français pour la lutte contre les changements climatiques.
C'est une blague un peu quand même, non ?
Quoi ?
C'est une blague.
Comment ça, c'est une blague ? Mais non, pourquoi ce serait une blague ?
Un expert.
Oui. Bah, c'est un expert, qu'est-ce que je vous disais ?
Ah, il a cru que c'était une série, les experts, qu'il allait tourner un truc là-bas, Légitimus.
Il doit s'y connaître, il n'y a pas de raison.
Mais je sais qu'il aime bien les animaux, il aime bien la planète et tout. Je me rappelle une fois, quand il était avec une chanteuse, il était au bord d'une piscine, elle faisait pimpon, pimpon pour sauver les guêpes qui tombaient dans la piscine.
Ah bah voyez, déjà.
Tu te rappelles? Et
non, moi je me rappelle pas moi.
Il aimait bien la nature. Il aimait bien la nature.
Et bah voyez, voilà. Donc bah, il sera à Copenhague pour représenter la France. Et qu'est-ce qu'elle a, Christine?
Pourquoi tu t'en rappelles pas? Dis-moi, tu lâches tes amis.
Moi, vos conneries, je suis pas là, moi. Oui, vous dites, je suis pas là. Pourquoi aujourd'hui de nombreux journalistes ont pris la direction de Culose dans l'Ain, vous qui aimez les petites villes de province? Pourquoi de nombreux journalistes ont pris aujourd'hui la direction de Culose dans l'Ain?
Il s'y passe quelque chose
aujourd'hui.
C'est peut-être pour ça qu'ils y vont. Alors.
Elle est maligne, hein, la diamant, quand même.
Ça va vite. Hein.
Est-ce que c'est un déplacement du président de la République?
Oui, c'est-à-dire
Le président de la République va à Culose.
Oui, pour annoncer le plan sur la taxe carbone.
Bonne réponse de Miller et Michalak. C'était ce midi, le président faisait œuvre de pédagogie dans son discours de Culose pour dévoiler le montant de la taxe et ses modalités de compensation. Ça a l'air un peu compliqué, hein, ces histoires d'impôts sur le revenu, on pourra déduire, j'ai pas tout compris.
Pierre, je crois que tu as suivi le journal télévisé tout à l'heure à 13h, donc tu peux peut-être nous résumer ce que le président de la République a dit.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé?
Non, justement, on savait que cet impôt, le gouvernement prétend que ce n'en est pas un, puisque ça va être remboursé.
La taxe carbone racontée par...
On se demande à quoi elle sert, étant donné que ça ne rapporte pas un sou à l'État. Ça ne rapporte pas un sou même pour le carbone, puisque l'État rembourse tout.
Oui, mais
l'État ne prend pas directement l'argent pour le faire.
Elle sert à inciter les gens à moins polluer.
Elle sert à vous inciter, Pierre, à acheter moins d'essence. Elle sert à vous inciter...
À vous chauffer de manière plus écologique.
Voilà à quoi ça sert, Pierre. Voyez.
Tout ce truc qui incite, j'y crois pas du tout.
Par exemple, vous avez quoi comme chauffage, vous, chez vous, Pierre?
Comme chauffeur, en ce moment, j'en ai deux. J'en ai
chauffage, pas chauffeur.
Non, chauffage?
Ouais.
Je sais pas.
Vous chauffez à quoi, vous, à la maison?
Je sais pas.
Ah bah voilà. Comment ça vous savez pas?
Non, c'est un chauffage central comme dans toutes les maisons.
Non, bah non, pas
ouais, centrale électrique au gaz.
Vous avez une chaudière
au fioul, au gaz? Non. C'est un chauffage
individuel,
d'immeuble.
Non, c'est de la maison qui chauffe. Pas m'occuper de ça aussi.
Ah, c'est d'un bourgeois.
Je sais pas de quoi est fait mon chauffage. Je sais pas, non. Je mets des bûches aussi.
Est-ce que tu payes Gaz de France? Est-ce que tu payes toi-même les factures? Est-ce que c'est pris sur tes charges de copropriété?
Je sais pas, moi. Non, je me fais pas chier à être marié depuis 30 ans pour m'occuper de ça. Puis quoi aussi? Puis quoi? Comment on lange les gosses? Puis quoi? Comment que tu fais la vaisselle à l'eau froide?
Je m'occupe pas de ça aussi.
Lui, il est là avec sa compagne. Il partage les charges du gaz, de l'électricité, du machin. Moi, je sais pas. Moi, je file de l'oseille, puis on s'occupe de ça pour moi.
Je sais pas, par exemple, Olivier.
Non. Je suis pas là, moi. Je suis parti, ça fait déjà une demi-heure que je suis parti.
Vous chauffez à quoi, vous, alors, par exemple?
Où?
Chez vous, pas sur le bateau. Sur le bateau, c'est pas chauffé.
Oui, en Polynésie, tu te chauffes avec quoi?
Je sais pas, en Bretagne, on a besoin de chauffage en Bretagne.
Non, on n'a pas besoin de chauffage.
Comment ça, on n'a pas besoin de Bretagne?
On chauffe jamais. Non.
Vous chauffez jamais?
Non, je dors la fenêtre ouverte en hiver. Toi.
Ah, moi aussi. Non, oui.
C'est comme les enfants qu'on joue.
On pourra dormir ensemble, la fenêtre ouverte.
Arrêtez de le chauffer comme ça.
Je plaisante, attendez, il est parti à Tahiti dans quelques heures, quelques jours.
Ouais, justement, je vais quand même lui mettre un petit coup avant. Avant de décoller quand même.
Hein. Rappelle le numéro de la chambre.
Non, franchement, voilà, pour le coup, il a peut-être pas de radiateur, mais vous le chauffez justement, Caroline.
T'es courageux parce que tu verrais son mari, le master que c'est, d'une baffe, il ne sait pas savoir où il t'en va.
Moi, j'ai peur de rien, costaud, moi, de ce côté-là.
Hein. Bah, c'est vrai que le mari de Caroline, attention, faut vous méfier quand même.
Il est un peu comme moi, si tu veux.
Non. Non, attends, moi, ça... il est pas immense, il est pas petit, il est très bien.
Non, il est super costaud.
Alors justement, s'il est très bien, pourquoi vous allez chercher un autre, vous voyez?
Oui, pourquoi? Hein,
bah, pourquoi c'est
mais bon. Je ne cherche pas. Je plaisante.
Et tu lui dis toujours que tu travailles sur RTL.
Ton mari.
Pour la dernière fois cet après-midi sur Europe 1, Laurent Ruquier teste son équipe et ce jour-là, il y avait Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Titoff, Gaspard Proust et Titoff, c'est le meilleur dont va se gêner.
Jean-Jacques Jégou a eu une initiative dont toute la presse parle et qui fait râler une certaine catégorie professionnelle. Laquelle ? C'est facile, hein, ma question.
Les restaurateurs.
Les restaurateurs, quelle est son initiative ?
On va remettre la TVA à 19,6.
Jean-Jacques Jégou, effectivement, est le sénateur qui a déposé cet amendement. C'est un centriste amendement qui ne sera pas voté en séance. Quand on lit l'article, on comprend effectivement que ça ne passera pas. Mais enfin...
C'est bien pour les restaurateurs, parce que là, comme ils n'ont pas baissé la TVA...
Ils vont pouvoir remonter.
Ils vont pouvoir la remonter maintenant. Maintenant, ils vont dire, ben oui,
les prix vont doubler.
Ils ont remis la TVA à 19,6.
Ben, en fait, ça ne passera pas, mais ils sont en pleine négociation pour les salaires, quand même, ils nous disent les restaurateurs, et que peut-être ils vont, grâce à ça, pouvoir embaucher. Ce qui est sûr, c'est que dans l'addition, enfin, sur la note qu'on nous amène à la fin du repas, on ne peut pas dire effectivement qu'on voit beaucoup la différence pour l'instant. Mais il y a un témoignage. Mais,
moi, je les comprends très bien, les restaurateurs. Ils disaient, on veut cette TVA à 24%, je ne sais pas combien.
19,6%.
19,6% était en train de nous bouffer notre truc, on peut plus continuer notre métier. On dit très bien, bah, vous baissez à 5,5. Pourquoi ? C'est parce qu'il manquait d'argent. C'est pas pour donner de l'argent aux clients.
Enfin, il y a quand même un restaurateur qui témoigne dans le Parisien.
De toute façon, c'est tous des voleurs, mais quand même.
Qui s'appelle Maxence, et ce restaurateur parisien a dit, moi j'ai baissé les prix de ma carte, et c'est vrai que les autres auraient dû en faire autant. J'ai pu sauver 5 emplois au lieu d'en supprimer 10. Bon, ça c'est plutôt un bon témoignage. Mais il y a quand même quelque chose qui me surprend dans l'article. Il faut dire que je commande peu d'eau minérale à table. Mais il témoigne, il dit par exemple, l'eau minérale chez moi est passée de 5,50 € à 4,50 €. Et en lisant ça, je me suis dit, mais alors l'eau minérale dans un restaurant, c'est 4,50 €.
Ouais, c'est ça qui coûte
c'est
cher.
C'est 26 balles l'eau minérale. 26 balles.
Mais c'est horrible.
Ah ouais, dès qu'on commence à compter en balles, on devient fou.
Ah, on devient fou.
Parce que c'est vrai que les prix ont changé complètement. C'est...
J'avais du vin, moi, à l'époque. Pour 26 balles.
Oui.
Bien sûr.
Vous avez noté, vous, la baisse de l'addition dans le restaurant? Peut-être vous n'allez pas beaucoup au restaurant, Gaspard. Si,
si, mais je bois pas de l'eau au resto.
Et c'est ça, voilà. Le vin, finalement, il coûte moins cher que l'eau minérale.
Non, je pense qu'il faut pas sombrer dans ses calculs. C'est un peu dommage.
Ah oui?
Je pense, oui, on est dans un pays occidental et riche. Je pense qu'il faut claquer. Je vois vraiment pas pourquoi il faut se priver et dire, oh, c'était moins cher avant, c'est plus cher maintenant. Oh là là. Il faut en profiter. Il faut être luxuriant, exubérant. Il faut arrêter de jouer la petite bite, quoi.
Petit bras, ouais.
C'est vrai, d'ailleurs, on nous dit, c'est la une du Parisien aujourd'hui, on nous dit, investissez, c'est le moment d'acheter.
Faut acheter,
évidemment.
Mais il faut avoir de l'argent pour ça.
Acheter dans l'immobilier, Pierre. Ah ouais. Est-ce que vous êtes propriétaire, vous, Pierre Bénichoux? Ça me surprend
c'est
toujours.
Pas vrai.
Non, mais non.
À votre âge.
Mais non.
T'as des domestiques.
J'ai beaucoup d'amis pour qui j'ai payé toute ma vie au restaurant, au cabaret, au café, tout ça, qui eux ont des maisons superbes. C'est moi qui leur ai acheté, en fait. Non, mais j'ai toujours dépensé mon pognon comme ça. Et ils sont là, ils ont dit, oh, tu dépenses trop. Pendant ce temps, eux, ils économisaient.
Ouais, c'est vrai.
Une maison dans Lyon qui revendait, ils achetaient une maison dans le Luberon. Après, ils achetaient une grande villa à Saint-Tropez, puis ils m'invitaient pas toujours parce que ils disaient que j'étais trop dépensier. Non, monsieur,
c'est mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison?
Non, je vais pas dans leur maison, je vais jamais dans les maisons, je reste chez moi ou je vais à l'hôtel. Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis.
Ah oui?
T'es obligé de te lever à même temps qu'eux le matin, tu sais pas comment retrouver une culotte de pyjama pour venir prendre le petit déjeuner. Tu te fais chier, t'es obligé de dire que la bouffe est bonne. téléphone. Il te présente des amis.
Ah oui.
Tragique, ça, il te présente des amis. Tu verras, c'est des mecs vachement marrants. Arrive un couple. Là-dessus, tu es obligé de donner un dîner quand même. Alors, tu donnes un dîner au restaurant, ça te coûte le prix d'un palace. Non. Puis en plus de ça, fou, quelle horreur. Et quand ils ont, alors ça, je te parle quand ils n'ont pas de gosses, mais quand ils ont des gosses.
Ah, c'est reparti.
Qui viennent te faire des surprises, le lit en portefeuille. Non, c'est une horreur.
Faut plus que je vous invite chez moi.
C'est un souvenir épouvantable, je peux te le dire maintenant.
Oui, oui.
C'est un souvenir épouvantable.
Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi?
Je sais pas, il y a tellement longtemps. Je sais plus.
Bah, je vais vous réinviter, Pierre, un petit week-end, si vous voulez.
Oh non, les petits week-ends, alors on arrive, on sait pas quand c'est qu'on va partir. Dès le samedi 11h du matin, avant d'aller faire le marché, qui est tellement sympathique, le marché à faire, faire le marché, tout ça. On dit, tu pars quand? Tu pars ce soir ou demain matin? Je sais pas, ne le dis pas trop, parce que il croit qu'on va rester jusqu'à lundi matin. Moi, je pense que le dimanche à midi, je suis obligé, ma mère est malade. Oh là 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 là. C'est atroce, en fait. C'est les gens qui sont atroces. Parce que les maisons sont pas mal.
Quand même, moi, j'avais mis les petits plats dans les grands.
Oui, c'est bien. Lui, il fait la cuisine, il fait des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes. C'est très bon.
En plus, j'ai mis la télé maintenant dans votre chambre, Pierre.
Il a sa chambre.
Ah bon?
Ah oui, maintenant il a
la chambre bénie.
J'ai mis la télé dans votre chambre, Pierre.
Oh, c'est gentil, écoute.
Une télé en noir et blanc.
C'est Catherine Langer.
En noir et blanc, il faut que tu te sentes bien.
Et les chiottes chez les gens. T'as remarqué les chiottes?
Ah, les chiottes chez les gens.
C'est toujours placé à côté de la salle à manger, t'ose pas. T'oses pas pisser, t'es obligé de faire marcher la doux,
le robinet.
La chasse d'eau en même temps.
T'es obligé d'être enrhumé.
Je me suis dit, tu veux pas mettre plus fort la musique, s'il te plaît?
C'est ça. J'adore ce morceau.
Je sais pas si t'as remarqué, souvent chez les gens, ça sent mauvais. Même dans le salon et tout, non, c'est horrible. Dans le salon, t'as sorti un fauteuil. Ah non, c'est le fauteuil de Pépé, on peut dire.
Le pire, c'est. Non, t'assois pas sur ce fauteuil, il est cassé.
Quand je vous fais un feu de cheminée.
La télévision, tu dis, tiens, je vais mettre tel truc. Ah non, on a pas cette chaîne-là, nous. On a que les trois chaînes, ben ça suffit. Et toi, tu dis, oh oui, bien sûr, ça suffit. Oui.
Mais chez qui
pas
va passer
trop fort,
ces week-ends.
Pas trop fort, il y a mémé qui dort.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous les retrouvez tous dès demain, même heure, 15h30, même endroit sur Europe 1, bien entendu. Laurent Ruquier et sa bande pour les meilleurs moments dont va se gêner.